présentation du patrimoine. Hein. Il y en a encore deux qui vont suivre.
Vous connaissez nos petites règles. Je vous les repasse à chaque fois pour la forme, parce que nous sommes structurés dans nos ateliers. Alors, on est méthodique. Hein, il faut l'être quand on conserve les points store. Vous trouverez également, quand vous irez sur le site et que vous regarderez ce cours, parce que vous
c'est
allez...
pas encore mis, hein. Il y a toujours un retard.
Alors, quand ? Dans quelques temps ?
Il est sur le site.
Quand vous irez en tout cas voir ce nouveau diaporama qui commence là, dans quelques temps, le voir, vous trouverez la liste mise à jour des différentes étapes de la restauration d'une sculpture en bois. Vous vous rappelez la semaine dernière, hein, on a parlé de ça. D'ailleurs, ça vaudrait également pour les sculptures en pierre. Hein. Ils ont qu'on avait commencé la semaine dernière par les sculptures en bois, vous vous rappelez. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé ce titre. J'aurais pu mettre d'une sculpture, tout simplement. Et vous savez qu'on avait fait quelques ajouts, modifications à la liste que j'avais préparée. Vous la trouverez donc là. Aujourd'hui, nous allons quitter le domaine de la sculpture en bois, mais de la sculpture tout court. Hein, et nous allons aller du côté de la peinture. Et je vous ai préparé, je vous ai concocté 15 petits dossiers sur lesquels il va falloir que vous travailliez. Hein, qui concernent des cas de figure très différents, très divers. Quelquefois, qui se recoupent un peu, mais vous savez ce que c'est. Hein, pour enfoncer un clou, il faut taper dessus à plusieurs reprises. Donc on aura quelquefois des choses un peu redondantes, mais c'est volontaire. C'est pour qu'on arrive à se familiariser avec certains cas de figure. Prêt et prête. Alors, on y va avec le premier cas. Voilà. C'est abîmé, ça, effectivement. Hein, il y a du travail. Alors d'abord, nous sommes méthodiques et nous commençons d'abord par regarder cet objet. Alors je ne vous demande pas d'aller dans le détail, mais de quoi s'agit-il ? D'abord en termes techniques, matière, une dimension approximative peut-être. Et une fois qu'on aura vu ça, on essaiera de voir où ça a pu être fait, de quelle époque cela peut dater, et enfin ce que ça représente. Alors d'abord, techniquement, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cet objet que vous avez sous les yeux ? Techniquement, c'est un retable, effectivement. C'est en quel matériau ?
Bois.
Et ça a quelle dimension approximativement ? Je ne vous demande pas, en centimètres près, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est à peu près la dimension de l'écran. C'est quasi grandeur nature. Hein. Peut-être un petit peu plus petit que ça. Encore que quand il est complet, il doit être à peu près de cette taille. Enfin, oui, c'est à peu près grandeur nature. Bien. Est-ce que vous avez, deuxième élément, ou idée peut-être, du lieu géographique, de l'ère géographique où ça a été réalisé, d'une époque, quant à cette œuvre ? Europe, oui. Et si on réduit un peu la focale, cette... Flamand. Donc Flandre. Et quelle époque ? Moyen-Âge. Et quand Moyen-Âge ? Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Hein.
15e.
Alors on va resserrer un peu.
15e.
14-15e. Donc on est en Flandre au 14e, 15e siècle. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu de quelle période et de quelle ère géographique doivent être, pour l'instant je ne vous ai rien dit, hein, doivent être cette œuvre, est-ce que vous pouvez me dire ce que cela représente ?
Un pape.
Un empereur ?
Non, un pape. Un pape, mais bizarrement, on dirait qu'il a une épée.
Il a une épée ? Alors c'est vrai que, comme vous disiez, pas en très bon état tout ça. Hein. Il a une tiare, donc c'est
un pape.
Hein. Est-ce que vous avez une idée même de quel pape il semble s'agir ? C'est vrai qu'il tient quelque chose. Comme vous dites, cet attribut qu'il a là, la photo n'est pas extraordinaire à l'écran, elle est mieux sur le petit, hein, mais bon. Cet objet que vous avez là ressemble à une épée, ça n'est pas une épée. C'est quoi ? C'est pas un sceptre non plus. C'est pas une croix. C'est pas une crosse.
Est-ce que c'est une arme ?
Ça n'est pas une arme.
Une balle ? Qu'est-ce qu'il peut dire ?
Ben, je crois que c'est une clé, si.
Ah bon ? Alors, c'est Saint-Pierre.
C'est donc Saint-Pierre. Et enfin, en tout cas, je crois que c'est une clé, parce que comme vous, j'ai un peu de mal à voir, mais je crois avoir vu quand même là l'anneau, vous voyez, la clé, hein, ici et là. Et là, vous voyez ici, ce que vous voyez, c'est la peine de la clé. Donc a priori, c'est une clé, je regarde là, mais je pense vraiment que c'est une clé. En tout cas, c'est Saint-Pierre, ça c'est sûr. Hein. Et donc la clé, évidemment, lui convient tout à fait. Et de chaque côté, les donateurs.
Non, des saints, il y a des auréoles.
Des saints, ils ont effectivement des auréoles. Hein? Donc ce ne sont pas des donateurs, puisqu'il y a des auréoles. Alors ce sont donc des saints, alors ça pourrait être des saints donateurs, mais tous les donateurs ne sont pas des saints. Donc quel saint ?
À gauche, un saint militaire.
Un saint militaire à gauche.
Alors ça peut être saint Georges.
Ça peut être saint Georges.
Il a un livre.
Il a un livre, oui.
Ouais. Oui.
Un livre et un saint militaire qui a un livre. Saint-Georges est une possibilité. Saint-Martin serait une autre. Pour Saint-Georges, il manquerait un petit quelque chose, peut-être.
L'agneau.
Pardon ?
Non. Non.
Un agneau, Saint-Georges ?
Non. Dragon.
Un dragon, plutôt.
Un dragon.
Un dragon, oui. Un dragon. Hein. C'est vrai que s'il y avait un dragon, ça pourrait être Saint-Georges. S'il n'a pas de dragon, bon. On pas forcément Saint-Georges sans dragon. Faisable, mais qu'est-ce que vous connaissez comme autre saint militaire ? Saint Paul, il a été un temps, c'est vrai. Il est rarement présenté, sauf au moment de sa conversion. C'est rarement représenté en militaire. Un autre saint militaire ?
Sébastien.
C'est faisable aussi. Quand on le voit, il n'est pas trop comme ça, cela dit. Saint Sébastien, quand on le rencontre, notamment dans des retables comme ça, il est
plutôt martyr.
Voilà, transpercé, martyr, en général quasiment entièrement nu. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un autre saint militaire vraiment important. Il a la peau. Il a la peau un peu colorée. Il devrait l'avoir encore plus.
C'est celui de Suisse.
Il s'appelle comment ?
Saint-Maurice.
Saint-Maurice. D'ailleurs, Saint-Maurice s'appelle Saint-Maurice parce que c'est un mort. Hein. Mort, Maurice. Hein. Saint-Maurice. Hein. Eh oui, Saint-Maurice, c'est un mort. Hein. Saint-Maurice, hein. Saint-Maurice d'Agaune, à deux pas d'ici, hein, en Suisse. Enfin, deux pas, trois pas d'ici. Hein. Vous savez qu'à Saint-Maurice d'Agaune, en Suisse, il y a un trésor extraordinaire, un abbaye incroyable. Hein. C'est là qu'a été défait Maurice et son armée, hein, à l'époque romaine. Et c'est un grand saint militaire. Eh bien, c'est saint Maurice que vous avez ici, certainement à gauche. Alors, on a vu ce qui se passait à gauche. Que se passe-t-il à droite ? Alors, le livre, ça vient du fait que si vous avez un saint, vous ne savez pas très bien quoi lui faire porter, vous le mettez à un livre, ça marche toujours. C'est un livre saint, forcément. Vous voyez, si vous lui donnez un petit peu de contenance, un livre, c'est bon. Donc là, en l'occurrence, le livre, il est, c'est plus un, voilà, un élément qui occupe. Et alors à droite,
que tient-elle ?
Que tient-elle ?
Un truc dans la main droite.
Elle a un truc dans la main droite.
Oui.
Et dans la main gauche.
Une religieuse ? Un genre de religieuse, encore qu'au Moyen-Âge, ce genre d'habit.
Oui, oui.
Mais elle tient une sorte de croix dans la main droite. On a l'impression, en tout cas.
Et qu'a-t-elle en bas à gauche ?
Qu'a-t-elle en bas ? Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, oui.
Ah, ça, pour avoir quelque chose, il y a quelque chose.
Mais on ne voit pas.
Ah !
C'est une bête.
Ah !
Une bête ?
C'est une bête.
On dirait des pattes.
On dirait des pattes, des grosses pattes. Puis là, regardez, on voit deux oreilles. Il y a des espèces de loupettes. Voilà l'œil. Ça, c'est le poitrail de la bête. Hein. Là, sa patte. Et là, vous avez même la queue de la bête. Regardez. Oh, là. Elle a un dragon à ses pieds. Une horrible bête. C'est qui, ça ? Un dragon. Une sainte avec un dragon. Ah, vous n'êtes pas allé voir l'exposition du musée de Nantes. Eh bien, demain, vous y allez. En plus, c'est gratuit. Donc, vous allez demain voir l'exposition du musée de Nantes. Alors, ça pourrait être Sainte-Marthe. C'est une bonne idée. Hein. D'ailleurs, c'est tellement une bonne idée que c'est Sainte-Marthe. Cela dit, ça pourrait être une autre sainte.
Pourquoi elle a un dragon ?
Ah, pourquoi elle a un dragon, Sainte-Marthe ?
Parce qu'il y a une terrasse.
Absolument. Sainte-Marthe a terrassé un dragon.
Ah bon ?
Sainte-Marthe a vu un dragon qui a voulu faire des choses épouvantables. Elle a réussi à terrasser un dragon. Mais effectivement, il y en a une autre. Il y a une autre sainte. qui a terrassé un dragon après qu'il lui soit arrivé quelques petits problèmes quand même. Oh, une scène bien locale, bien. Avec un nom très...
C'est comme chez nous.
Oui. Marguerite.
Ah, hein, oui.
Sainte Marguerite. Ben oui. Sainte Marguerite, hein, à qui il est arrivé plein de choses. Hein. Sainte Marguerite, c'était une bergère. Vous savez, Sainte Marguerite, c'est celle qui avait été remarquée alors qu'elle gardait des moutons dans les champs par le préfet Olibrius. Vous connaissez ce mot Olibrius qu'on utilise, hein. Un jour, Olibrius voit Sainte Marguerite qui heurle les moutons. Donc Sainte Marguerite, ma foi, pas mal. Hein. Alors il va essayer d'approcher Sainte Marguerite, comme Sainte Marguerite qui n'est pas du tout, qui est chrétienne, hein, veut pas du tout faire quoi que ce soit avec cet horrible Olibrius. Olibrius l'a assez mal pris, il a fait martyriser Sainte Marguerite, etc. Et le genre de c'est que Sainte Marguerite, un jour, voit un dragon qui s'avance derrière elle, devant elle. Le dragon va carrément avaler Sainte Marguerite. J'ai dit, bon, c'est un dragon qui avait un petit peu faim. Donc, il a vraiment avalé, hop, comme ça. Hein. Et il avalait donc très, très vite. Mais Sainte Marguerite avait toujours sur elle un crucifix. D'ailleurs, je vous file le tuyau. Il est toujours sur vous un crucifix. La preuve, ça peut servir. Avec son crucifix, elle a réussi à ouvrir le dos du dragon. Il est ressorti, comme ça. Tout propre, le dragon. Hein. Puisque, absolument, comme le savon rouge. Le dragon l'a tellement gobé rapidement, encore une fois, il avait très faim, hein, qu'elle est ressortie intacte. Et quand vous irez voir dès demain l'exposition du musée de Nons, parce que vous allez aller voir l'exposition du musée de Nons, eh bien, vous verrez plusieurs représentations de Sainte Marguerite, dont l'une, où on voit Sainte Marguerite qui sort du dragon, et le dragon a encore un peu de la toge, enfin, de l'habit de Sainte Marguerite qui sort de la bouche, parce que, bah, il vient de l'avaler, et elle vient d'ouvrir le dragon, et fait, elle ressort intacte. En fait, ici, c'est plutôt Sainte Marthe, hein, mais c'est vrai que Sainte Marthe et Sainte Marguerite sont deux saintes très, très proches. Hein. Il y en a une qui est plutôt du sud, une qui est plutôt du nord. Voilà, Marthe est plutôt du sud. Oui, mais ça, vous m'avez dit que c'était flamand. Ah, ça ne va pas. Donc, c'est pas trop flamand. C'est plutôt... Bah, plutôt du côté de l'Italie. Hein. Même si c'est pas italien. C'est français du sud. Ce que vous avez là, c'est une œuvre française, mais du sud de la France. Est-ce que vous connaissez un centre dans le sud de la France qui a été très actif au niveau pictural à la fin du Moyen-Âge, et pour cause ? Eh bien voilà, Avignon. Parce qu'Avignon, pourquoi c'est très actif ? Ah ben parce qu'il y a un pape. Hein, il y a un pape à Avignon. Alors quand vous avez un pape, c'est actif au niveau de la peinture au Moyen-Âge. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse école d'Avignon à la fin du Moyen-Âge. Hein, voilà. Et ça, c'est une œuvre d'école d'Avignon.
Bien. C'est Avignon, ça ?
Pardon ?
C'est Avignon,
absolument. Hein, c'est au musée du Petit Palais à Avignon. Alors, ce retable en bois que nous venons de décrire, quel problème a-t-il ?
Le bois se fend.
Le bois se fend. Et d'un. Le bois se fend. Hein.
Il fend la partout. Peinture est écaillée.
La peinture est écaillée. La peinture.
Ou les vernis, oui.
Oui, aussi.
Et puis même la sous-couche.
Pardon.
La sous-couche aussi.
La sous-couche qui supporte la peinture, effectivement. Ouais. Qui supporte que la peinture. Alors le vernis, il est sur la peinture,
non,
oui.
Mais c'est souvent, c'était pas encore les peintures à l'huile.
Absolument, c'était souvent de la tempéra. Hein. Alors là, je ne saurais pas vous dire, hein, parce qu'on est au XVe siècle à Avignon, on va parler de beaucoup de peintres qui peignent déjà à l'huile. Donc là je, précisément, je passais peut-être déjà de la peinture à l'huile, un peu tout la peinture à l'huile apparaît au XIVe siècle. Hein. Voilà. Il y a autre chose. Pardon.
Est-ce que les anges sont d'époque ?
Ah, les anges sont d'époque, oui. Là, vous aviez oublié d'en parler.
Oui, il y a un ange musicien.
Des anges musiciens. Ils sont tout à fait d'époque. Mais il y a autre chose qui... Il y a de la peinture, mais il n'y a pas que de la peinture. Il y a de la dorure. Hein.
Oui.
Tout l'arrière est complètement doré. Hein. Ce n'est pas tout à fait pareil, la dorure et la peinture. Hein. Ça ne se fait pas pareil. Après tout, hein.
Mais c'est des reliefs ou c'est la peinture ?
C'est des reliefs. Hein. Ce que vous voyez là, ce sont des reliefs. Hein. Voilà. C'est des reliefs en bois. Effectivement. Fait chaud chez vous. Voilà. Tout quand on s'agite. Voilà. Alors, on a donc un retable en bois d'assez grande dimension qui se fend un peu de toutes parts. La peinture, le support de la peinture, le support de la dorure ont tendance à s'écailler. Côté vernis, c'est pas la joie non plus, vous le disiez. Bref, ça pose un problème. Hein.
Mais est-ce qu'on vernissait à cette époque ?
On vernissait. Alors, il y avait des vernis qui étaient de différents types, si vous voulez. Et c'était, en particulier, pas forcément des vernis très brillants, comme ceux qu'on a aujourd'hui. C'était souvent des vernis mats.
Oui. Hein.
Voilà. Alors, je voulais vous demander une chose. Pourquoi est-ce que ce bois se fissure tant ? Pourquoi est-ce que... Pardon ?
Il sèche.
Oui, ça travaille la chaleur, mais vous voyez, là, il y a une fissure, il y en a une autre, il y en a une autre. Une autre.
Parce que ce n'est pas un bois massif.
Voilà, ce n'est pas un bois massif. Hein. Tout ça est fait en différents...
Planches.
Voilà, planches, panneaux. Hein. C'est fait en plusieurs panneaux côte à côte.
Est-ce qu'il se
plie ? Il se plie pas, non.
Ah non.
Non, c'est ce qu'on appelle... Comment est-ce qu'on appelle les retables qui ne se plient pas ?
Triptyque ?
Pardon ?
Un triptyque ?
Ah, ce serait un triptyque... alors, on pourrait dire que c'est un triptyque parce qu'il est en trois parties. Mais un triptyque, en général, bouge, si vous voulez. Vous avez des panneaux qui bougent là, ça ne bouge pas. Donc, c'est un retable qui est posé sur la contre-table de l'hôtel, mais qui ne bouge pas. En Italie, on utilise un mot qu'on a déjà utilisé ici. On appelle ça une pala. Hein, une pala, hein, c'est un retable qui est comme ça posé debout. Il n'y a pas de volet. C'est, voilà, c'est d'un seul tenant, si vous voulez, même si c'est fait de plusieurs panneaux. Hein, il n'y a pas de volet qui bouge. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Vous avez ça.
On a déjà la qualité du bois.
Oui, il faut effectivement savoir de quel bois il s'agit.
Et la qualité et les risques.
Et les risques, l'état du bois. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème, par exemple ?
Des insectes.
Des insectes.
Bon, un petit coup d'anoxie.
Voilà, un petit coup d'anoxie, tout ira mieux. Très bien. Poche d'anoxie. Oui ? Vous disiez ? Oui, alors absolument, hein, c'est important de voir l'arrière. Hein, qu'est-ce qui se passe effectivement derrière, hein. Donc effectivement, une œuvre, hein, une peinture, c'est important de le voir l'avant et de voir l'arrière, parce que l'arrière, ça compte, évidemment, hein, le support. Hein. Donc il y a effectivement des tas de problèmes qui se passent au niveau du bois. Il y a une question fondamentale au niveau du bois, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, les insectes, etc. Une autre question qui est très importante, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure.
L'humidité.
Oui, voilà, la question de l'humidité, on va dire l'équilibre hygrométrique de l'œuvre, hein, de l'ambiance, si vous voulez, hygrométrique dans laquelle est conservée l'œuvre. Ça, c'est effectivement très important. Bien. Qu'est-ce que vous verriez ? Alors, donc, vous avez cette œuvre devant vous, elle débarque, hein, dans cet état précaire. Vous allez donc déjà regarder un peu le support de quoi il retourne. Qu'est-ce que vous allez faire aussi d'autre dans l'urgence pour alors que la chose débarque, hein, et que vous allez essayer, rappelez-vous notre petit listing, hein, pour les sculptures, qui vaut quelque part pour les peintures aussi. Hein. Alors voilà, il faut effectivement refixer. Avant de refixer, il y a même peut-être encore quelque chose, et vous le devinez peut-être sur le devant, quelque chose, est-ce que vous le devinez ? Non, vous ne pouvez pas trop le dire. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire en priorité même.
Pas nettoyer, mais...
Alors, nettoyer, vous le ferez peut-être après avoir refixé, parce que vous ne pouvez nettoyer que si ça tient. Oui. Autrement, vous risquez de faire tomber. Mais vraiment, les trucs, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais là... Ça tombe.
Gratter les écailles.
Alors, gratter les écailles ?
Non.
Les recoller, reboucher ?
Ah non, recoller, enfin, fixer avec le papier japon.
Voilà. La première des choses à faire, c'est effectivement ce genre de choses, de fixer avec du papier japon. Parce que là, ce que vous avez devant vous, c'est un château branlant. Hein. Non seulement les panneaux ne tiennent plus vraiment, ils sont tous comme ça, hein, mais en plus... Vous le devinez d'ailleurs dans des secteurs comme ça ou comme ça. Mais là, on va dire, on voit vraiment que c'est en train de tomber. Quoi. Donc si vous commencez à faire des choses là-dessus, pouf, ça va tomber. Et puis votre dorure finit. Quoi. Donc pour que ça reste, sans que ce soit définitif, vous allez coller des papiers japon. Ça va donner, je crois que j'ai une diapositive qui montre ça. Non, ça n'a rien donné là, si ?
Bon, vraiment.
Voilà.
Ah voilà.
Oui, ça va donner ça.
Oui.
Hein, là, vous voyez la même œuvre avec des papiers japon partout. Les papiers japon, c'est un papier très léger, vous savez, très léger, hein, que vous collez avec un type d'adhésif particulier, mais réversible et très léger, qui permet, si vous voulez, de fixer la chose, hein, temporairement. Vous pourrez plus tard, tranquillement, l'enlever et puis traiter chacune des parties. Mais là, ça permet, dans un premier temps, d'éviter les dégâts. Hein, parce que si vous ne faites rien, tout tombe.
Il ne se déchire à peu près pas, le papier japon.
Oui, c'est vrai, absolument. Il est structuré de telle manière que c'est un papier très à la fois solide et souple, si vous
et presque voulez. Transparent.
Absolument. Hein, on voit vraiment
translucide.
Translucide. Ouais. Voilà, ce qui fait que là, bah, vous avez une œuvre. Il y a du boulot, hein.
Oui.
Mais c'est sécurisé, si vous voulez, ça ne tombe plus. Vous n'allez pas tous les matins en arrivant voir des tas de machins posés par terre, quoi. Parce que tout ce qui tombait, ben, est maintenu par le papier japon. Ça, c'est vraiment capital. Et puisque c'est réversible. Et léger et en même temps soluble, ça, le papier japon, c'est vraiment très important. Bien. Je crois que l'image suivante nous montre peut-être l'arrière. Oui, voilà. La voie et le dos. Hein.
Vous voyez, c'est fait effectivement de plusieurs panneaux les uns derrière les autres.
Alors, on va peut-être revenir là. Alors, maintenant, vous allez faire quoi ? La chose est stabilisée, on y voit plus clair.
Alors voilà, il va y avoir effectivement les différentes phases dont on avait parlé la dernière fois, en particulier effectivement le nettoyage. Avant le nettoyage, on avait même parlé, vous vous rappelez, du dépoussiérage et du décrassage. Hein, parce que quelquefois tout ça est dans des églises, il y a plein de poussière, quand il n'y a pas des morceaux de crépi qui sont tombés, enfin vous savez, parfois, hein, c'est pas la joie. Hein. Voilà, donc décrassage, dépoussiérage, nettoyage, absolument, ouais. Ensuite,
repeindre.
Enfin. Voilà, voilà ce qu'on appelait, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le refixage. Hein, voilà.
Et là, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, sur la totalité de l'œuvre, et notamment les parties où vous avez mis du papier japon, hein, refixer, et donc au fur et à mesure enlever les papiers japon, puisque ça va être refixé. Hein.
Mais comment on peut faire ça ?
Par exemple, les écailles peuvent être toutes refixées.
Alors, toutes ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, alors je ne sais pas, par exemple là, hein, ou plage par exemple, hein, ou certainement ailleurs, mais on voit mal là, où la matière est partie, si vous voulez, perdue.
Oui, mais là, c'est quand il reste encore des écailles.
Oui.
On peut toujours les refixer, les écailles.
Ah oui, 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 oui.
Ah, oui.
Oui, oui.
Si elles sont en place.
Oui, oui. C'est, oui, oui. Alors, même si, alors quelquefois, ah, elles ont. Il arrive quelquefois que des écailles aient migré. C'est-à-dire qu'il arrive, par exemple, de vendre des œuvres comme ça, surtout, hein, qu'à une époque X ou Y, un restaurateur plus ou moins professionnel ait fait des refixages, mais un peu mal fait, si vous voulez. Et parce que, par exemple, une écaille qui était là bougeait, en passant, en faisant son opération à lui de refixage, quelquefois l'écaille, elle a migré là. Et quand on ressort, on voit qu'il y a là une écaille qui allait là. Ben dans ces cas-là, on l'enlève, on la remet à sa place. Voilà. Ouais. Mais alors, c'est facile à dire, un peu difficile à faire. Hein. Mais enfin, moi, j'ai vu des cas comme ça, hein, donc ça se fait.
Mais pourquoi on met du papier japon d'abord ? Pourquoi pas refixer ?
Parce que si on ne met pas le papier d'abord, le papier japon, tout ça est très long. Hein, parce que là je vous montre en 5 minutes ce qui se fait en 4. Ce retable, il a fallu la restauration, on dirait 40 ans.
Oh,
40 ans.
Hein,
parce que c'est on pensait en fait que ce tableau était irrestaurable. Quand il est arrivé au musée du Petit Palais, enfin il est au musée de Vienne depuis très très longtemps, hein, mais il était du musée Calvé au musée du Petit Palais, il a été mis en réserve, on s'est dit bon, de toute façon on verra plus tard ce que ça c'est, de toute façon c'est pas possible, ça tombe en morceaux, etc. Hein. Et parce qu'aussi les techniques en 40 ans ont beaucoup beaucoup évolué. Hein. Donc au départ on a simplement mis de manière à ce qu'il ne s'abîme pas plus. Hein. Donc en mettant des papiers japon, c'était une manière aussi de dire bon, on verra un peu plus tard, et voilà. Hein. Donc, ce n'est pas 40 ans de travail en permanence dessus, hein. Mais c'est 40 ans entre le début de l'opération de la restauration et l'exposition où l'année dernière il a été présenté restauré, comme je vais vous montrer dans un instant. Parce qu'en 2017, il y a une exposition à Avignon sur ce retable qui a été un peu une découverte parce que tout le monde savait qu'il existait, personne ne l'avait jamais vu depuis 40 ans, voire plus. Il était en réserve et tout le monde se disait de toute façon, c'est une telle ruine qu'on ne le reverra plus. Voilà. Voilà, donc en mettant un papier japon, ça permet de gagner du temps, et quand tout est comme ça, vous pouvez souvent travailler là, qui est une partie saine, sans avoir peur qu'au-dessus, tout tombe. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et alors, une fois, on brûle un peu les étapes, vous l'avez bien compris, hein, une fois que vous avez travaillé sur le nettoyage, bien sûr, le refixage, qu'il y a, donc, je dirais, le tableau est sain, il va évidemment y avoir des lacunes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces lacunes ? Voilà, vous allez généralement les combler, tout simplement. Et puis, rappelez-vous pour les sculptures, qu'est-ce qu'on fait par-dessus les lacunes ? On fait ce qu'on appelle la retouche. Hein. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, une lacune ben là, par exemple, hein, vous allez la combler, parce que là, visiblement, la dorure est partie. Vous allez combler et vous allez faire la retouche. Ça, on pourra éventuellement
en parler. C'est pas là le plus difficile.
Pardon ?
C'est pas là le plus difficile.
Non, c'est pas là le plus difficile. Encore qu'une retouche, il y a retouche et retouche. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement.
Quand il y a les couleurs.
Quand on en est là. Voilà. Au niveau du support, alors on ne va pas aller dans le détail hein, de la restauration du support, mais qu'est-ce qui vous paraît important ?
Les
Donc, on a vu tout à l'heure hein, que quand une œuvre comme ça arrivait, il fallait bien garder l'arrière et pas que l'avant. Hein. Effectivement, ça s'écarte.
Que les panneaux
ne tombent pas. Que les panneaux ne tombent pas, s'écartent pas, oui. Et comment vous faites pour ça? Les refixer, c'est-à-dire
quelque chose, par exemple, mettre à l'arrière quelque chose qui...
pour les tenir bien rigides.
Oui. Genre des têtes.
Est-ce...
Pour qu'il ne bouge plus, si j'ose dire. Est-ce que c'est si bien que ça, votre avis ?
Non, parce que ça peut recraquer. Voilà. Et recraquer ailleurs, éventuellement.
Voilà. Le problème de panneaux de bois, c'est que le bois, c'est un matériau vivant.
Oui.
Hein ? C'est un matériau organique. Alors, si vous contraignez un matériau organique, c'est comme si vous contraignez un être humain, vous allez avoir des problèmes. Hein ? Parce que le bois, il a envie, quelquefois, de se cintrer, puis quelquefois pas. Le bois, il suit sa respiration. Hein. Alors, c'est de manière infime, qu'il y a parfois, mais quand même, quelquefois, ça se voit, à quelques centimètres près. Donc, si vous contraignez le bois, si un panneau, par exemple, qui est un peu arqué, parce que bah, c'est un panneau, que c'est sa vie, quoi. Si vous le remettez tout droit, ça va péter de tous les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez sûrement vu ça, d'ailleurs, avec des, je sais pas, on a une porte chez soi, elle arque un peu, vous la remettez droit, la peinture s'en va, quoi. C'est pareil avec un panneau comme ça. Donc, en fait, faut pas vouloir contraindre et se dire, oh là là, attention, hein, ces panneaux, je vais leur foutre derrière un autre panneau, puis alors, avec des vis, hein, puis on va être bien droit, puis à pas bouger un centimètre. Non, non, que ça bouge, c'est bien. Il faut, si vous voulez, que... Alors, faut pas non plus que... vous voyez, ça bouge de manière drastique, mais il faut laisser respirer le panneau qui vive sa vie. Quoi, il se cintre un peu, ben, il se cintre un peu, il se descendre, ben, il se descendre. Alors,
on peut pas l'empoiler, par exemple.
Pardon ?
On peut pas l'empoiler derrière, par
exemple. Alors, votre remarque est intéressante parce que au Moyen-Âge, souvent, c'est ce que faisaient les artistes au Moyen-Âge. Généralement, derrière les panneaux, ils entoilaient. Très souvent, vous verrez des panneaux médiévaux, vous regardez l'arrière, vous voyez qu'il y a une toile collée. Parce qu'effectivement, quand vous voyez un panneau, si jamais il est devant peint et doré et derrière rien du tout, comme c'est le cas ici, l'air ne va pas agir de la même manière, si vous voulez, et l'humidité devant et derrière. Donc il y a un déséquilibre qui fait que puisqu'à l'arrière, ce n'est pas protégé, qu'à l'avant, ça l'est, ben, le panneau ne va pas réagir pareil devant et derrière. Il y a un déséquilibre. Vous voyez, le panneau va trop bouger. Ce qui fait qu'au Moyen-Âge, puisqu'on avait compris ça, très souvent, on traitait l'arrière. On le peignait, alors quelquefois d'une teinte, simplement, hein. Et souvent également, on y mettait une sorte de tissu, si vous voulez, un peu large comme ça, qui était collé dessus. C'est-à-dire qu'on traitait le panneau. Je serais pas surpris qu'il y ait autrefois eu ça à l'arrière, qu'à une époque X ou Y, on ait tout viré, hein, pour faire propre. Parce qu'évidemment, cette espèce de tissu qu'on mettait à l'arrière au Moyen-Âge n'était pas très joli, celui-là, c'était pas le but d'ailleurs. Hein. Et je serais pas surpris que là, il y ait eu ça jadis et qu'on les ait enlevés. C'est pas sûr, hein, mais c'est possible. Mais souvent, encore une fois, pour avoir cet équilibre, l'arrière était traité. Moins joli, moins qu'avant, mais traité quand même pour qu'il n'y ait pas des équipes.
D'ailleurs, il y a deux couleurs, il y a un marron et il y a un vert en bas.
Alors, bah, le vert en bas, c'est ça. Ça, c'est le fond de la diapo.
Non. Il y a une traverse, là.
Ça, la traverse, là.
Voilà.
Ça. Oh, bah, ça, en fait, c'est l'espèce de cadre, si vous voulez, qui est tout autour.
Oui, mais c'est vert, principalement, alors qu'ailleurs, c'est pas le même matière.
Oui, c'est un peu plus sombre.
Le vert.
Oui, c'est un petit peu plus sombre, effectivement. En tout cas, ce qui est à retenir, si vous voulez, vous voyez bien que là, il y a trois panneaux qui sont eux-mêmes faits de plusieurs panneaux, d'ailleurs, hein, dans une espèce de cadre en trois parties, genre triptyque un peu, sauf que c'est une palette, parce qu'il n'y a pas de volet, encore une fois. Hein, et l'idée n'est pas, surtout, de contraindre les trois trucs en vissant pour que ça ne bouge pas, mais au contraire, de laisser un peu tout ça respirer. Ça va cintrer un peu, ben c'est pas grave. Quelquefois, allez regarder dans les musées, vous voyez, il y a des panneaux de bois qui sont dans des cadres. Et quand vous regardez entre le panneau de bois et le cadre, le panneau, vous voyez qu'il est comme ça, j'exagère, il est cintré. Et le cadre, vous voyez, il est tout droit, lui. C'est pas grave. Vaut mieux ça que l'inverse. Parce que si vous remettez le panneau tout droit, ça va claquer. Le bois, il vit sa vie, il respire. D'accord ? Ça, c'est important. D'ailleurs, très souvent, vous voyez ici, il y a eu des espèces de petites clés qui ont été mises.
Oui.
Très souvent, c'est fait dans des matériaux très légers, comme du balsa, par exemple. Oui. Hein, le balsa, l'intérêt, c'est que c'est très souple, et ce n'est pas un bois très dur qui va empêcher le bois de bouger. Au contraire, ça va bouger en même temps que le bois. Alors, ça maintient, mais très souplement. D'accord ?
C'est collé.
Généralement, c'est collé, oui. Voilà, c'est pareil, il ne faut pas des colles... super stick, hein, mais des colles plus légères. Voilà le retable restauré aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas grave, on voit les traces des panneaux, Et là, vous sentez que le panneau, il n'est pas droit. Bah, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée, pas d'avoir un machin avec des lignes et un placoplâtre, hein, c'est pas ça. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on a vu. C'était un peu une révélation l'année dernière. Hein. C'est-à-dire le panneau restauré. Vous remarquez notre monstre. Il y a même un morceau d'humain qui sort, là. Hein. Il est en train de manger quelqu'un. D'accord? Sympa, hein? Voilà. Donc c'est un tableau de l'école d'Avignon. Entre parenthèses, voilà une photo pas bonne du tout, hein, mais que je vous ai quand même mis parce qu'il faut savoir que le retable, il se poursuit avec une partie supérieure qui est légèrement incurvée. On appelle ça le superciel dans un retable. Hein. Dans ces retables médiévaux du XVe siècle, souvent, il y a au-dessus une partie comme ça, un peu incurvée, qui servait tout simplement à ce que le retable lui-même ne prenne pas trop la poussière. Et puis à terminer le retable, on appelle ça un superciel. Alors, c'est la seule photo que j'ai trouvée où le superciel apparaît. Voilà, je voulais donc vous la montrer. Là, il est complet.
Voilà. En haut à gauche.
Oui.
C'est quoi?
À votre avis?
La planche. Restauration.
Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il manque. On a décidé de ne pas remettre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un manque. Oui. Une planche manquait, on l'a remplacée pour pas qu'il y ait un trou, quoi. Mais à moins que ce soit peut-être, c'est peut-être les planches d'origine, hein. Simplement il n'y a plus de peinture dessus. Donc ben voilà, on a essayé de pas repeindre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait précisément. D'accord ?
Ok.
Voilà.
C'est au-dessus d'un hôtel ?
Pardon ?
C'est au-dessus, ça se trouve au-dessus d'un hôtel ?
Ah, c'est un retable, donc c'était au-dessus d'un hôtel. Aujourd'hui c'est donc au musée du Petit Palais Avignon, mais effectivement c'est un retable, donc c'était au-dessus d'un hôtel. Ok ? Bien. Eh bien, on sera venu à bout du premier de ces dossiers. Le deuxième. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous ?
C'est une toile.
C'est une toile. Donc on a une peinture sur toile.
Un portrait, il y a des mains.
On devine une femme, oui. Voilà. Alors on voit là, effectivement, on devine des épaules et des bras, des mains croisées. Ça, c'est quoi ? La tête. La tête, vous avez une idée de... Pardon. De profil, peut-être.
Oui,
peut-être, de profil.
Je dirais qu'elle est de profil.
Et alors ça, ce serait quoi, ça?
Sa robe.
La robe. Hein. Donc une femme debout, couchée, assise.
Assise.
Micorne. Voilà son buste avec, ouais, avec les bras, les mains et la tête, peut-être de profil. Hein.
Un micorne.
Ok. Mais alors, c'est sur toile. Hein. Voilà. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu la pathologie de cette œuvre? Je ne vais pas vous demander ni ce que ça représente, je pense que c'est un peu compliqué, ni de quelle époque ça date, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Hein. On ne voit quand même pas assez. Mais ce que l'on voit, c'est la pathologie de l'œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pardon? Oui.
Oh, il y a dû avoir beaucoup d'humidité.
D'humidité. Champignons, oui. Peut-être. Pardon. Moi, j'y suis vraisemblablement.
Peut-être quelques cierges supplémentaires.
Ah, oh, il y a peut-être bien eu ça aussi, oui. Je pourrais ajouter au désastre.
Un peu de fumée, quoi.
Ouais.
Mais on restaure ça.
Oui. Pardon.
On la restaurer.
Ah oui, vous allez voir.
Ah oui.
Ah oui. Oui, oui. Oh non, ça c'est pas un drame. Hein.
Combien de temps?
Alors.
Oh, ça, je pense que c'est un an et puis c'est bon. Hein.
Oui, mais alors, c'est.
Oui, oui. Non, là, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je dis ça, je suis pas restaurateur, hein. Mais pour avoir fait restaurer énormément d'œuvres, hein, non, bah, je ne dis pas que ce soit simple, facile. Peut-être un an et demi, si vous voulez. Voilà. Mais c'est pas, contrairement à ce que peut penser, hein, ce genre de choses là, c'est impressionnant. Alors, c'est plutôt moins coton que l'œuvre précédente.
Alors,
je ne dis pas que ce soit facile, ni simple, ni... mais là, non, là, c'est pas du tout un cas de figure désespéré. Hein.
Et c'est quoi
le petit carré? Oui, c'est ce que je voulais
dire. Un petit peu moins, ouais.
C'est
quoi le petit carré?
C'est du papier japon.
Ah,
là, ce que vous voyez là, c'est du papier japon. Ça a été mis parce que ça tombait. Alors, il y a les petits carrés pour éviter que ça tombe. Vous verrez très souvent ça, hein. Très très souvent. On met ça décemment pour que bah, ce qui tombe ne tombe pas. Voilà.
Mais on ne voit rien, elle a besoin d'un nettoyage, je pense.
Ah oui, nettoyage. Hein. Ça, c'est une œuvre effectivement bien bien encrassée entre la poussière, l'humidité, la moisissure, les cierges et le reste. C'est crasseux. Donc un petit nettoyage ne sera pas de trop, je crois.
C'est pas une image religieuse.
Je ne sais pas. À votre avis?
Non.
Non. Bah, peut-être pas.
Peut-être
on va
que
voir.
Si.
Peut-être que si, peut-être que non. Qu'est-ce qu'on a fait là pour bien mettre en avant la pathologie que vous avez, finalement, c'est bien vu.
Alors,
vous avez vu que le support était en train de... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que cette marque qui a là, vous n'en avez pas parlé de ça.
On a la fois
le cadre.
C'est l'art du cadre.
Oui.
Oui.
Ou alors c'est le tour de la toile.
Oui. Comment ça s'appelle ce qu'il y a autour de la toile et qui tient la toile?
La marie-louise.
Non, la marie-louise, c'est par exemple pour un dessin. Hein. Dans un dessin, vous mettez le dessin sous une marie-louise, comme ça, il ne retourne pas contre la vitre. Hein. Comment est-ce qu'on appelle l'élément, en quelle matière d'ailleurs, qui tient la toile à l'arrière? Pardon?
En bois.
En bois, en général.
Et souvent un bois tendre.
Souvent un bois tendre. On appelle ça comment?
Il y a un cadre.
Alors, c'est pas un cadre. Le cadre, on le mettra devant et il sera autour de la
toile. Non, mais la toile, elle est tendue sur un cadre.
Ah, pas un cadre. Ça s'appelle pas un cadre.
Ça s'appelle pas un cadre?
Ah non, pas du tout. Pardon? Non. Enfin, on veut dire que c'est le bâti, mais le titre, c'est le mot précis, n'est ni cadre ni bâti. Pas un chevalin, je vais laisser un meuble sur lequel on posera la peinture. Comment est-ce qu'on appelle cet élément dont on voit en fait ici la marque, d'autant que c'est lui qui est à l'arrière qui tient la toile, et que très souvent on la voit d'ailleurs cette marque-là.
Le châssis.
Voilà, ça s'appelle un châssis. Hein. C'est important parce que si vous commencez à dire on voit les marques du cadre, alors là, il faut bien garder le vocabulaire précis. C'est ce qu'on appelle le châssis. Hein. Le châssis, c'est ce qu'il y a derrière une toile et qui tend la toile. Alors, le châssis, généralement, il est fait d'un grand élément rectangulaire et au milieu, vous avez souvent
une traverse.
Voilà, ce qu'on appelle une traverse.
Et puis
on
alors,
voit les marques du châssis.
Il peut être encore bloqué par des sortes
de... Des clés. Vous avez généralement des clés. On va voir, je crois, le dos, d'ailleurs, cette peinture. On verra peut-être les clés en question. Qu'est-ce qui fait que, ici, cette photographie met bien en évidence tous ces problèmes? La marque du châssis, le boursouflage de la toile, les lieux où on a mis du papier Japon, parce qu'il y avait visiblement... C'est une photo.
Mais on a fait un éclairage latéral aussi.
Voilà, ce qu'on appelle un éclairage rasant. Un éclairage latéral. Ça, c'est très important, les éclairages latéraux, parce que ça permet de bien voir les pathologies. Si vous prenez ça normalement, plutôt que lumière devant, vous allez tout écraser, vous verrez rien, vous ne verrez pas les pathologies. Là, avec une pathologie de côté, vous allez beaucoup mieux voir les problèmes, et notamment que ça n'est pas droit. Alors, je crois que... Ah non.
Merci.
Voilà. Je croyais que j'avais une vue de l'arrière, mais... Alors, vous allez faire quoi pour ça?
Nettoyer.
Prier.
Vous allez prier. C'est bien.
On peut
analyser sans doute les salissures, oui. Je ne sais pas si on saura tout, mais on peut sans doute les analyser. En tout cas, ce que l'on peut voir, à nouveau, hein, c'est par exemple si le châssis est bourré de verre.
Ah oui.
Et là, une petite anoxie, une fois de plus, ne sera pas inutile. Hein, voilà. Donc déjà, on peut voir ça. Voilà. Ensuite.
Le
nettoyer, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment avant toute chose?
On ne peut pas radiographier pour voir.
On peut radiographier. La radiographie aura par exemple quel intérêt?
Voir ce qu'il y a en dessous de la saleté.
Voilà, voir ce qu'il y a en dessous de la saleté. Est-ce que la radiographie va montrer l'image, uniquement l'image qu'il y a sous... Est-ce qu'elle va vous révéler ce qui est sur la peinture?
Pas forcément, on peut trouver des
arpentilles. Pas forcément que ça. Voilà, on peut trouver des choses qui sont en dessous, effectivement. Par exemple, et puis ça vous montrera aussi dans quel état est la toile. Par exemple, la radio, elle va vous montrer tout ce qu'il y a dans le ventre, dans la peinture, c'est juste. Hein, bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire peut-être avant toute chose? Parce que vous dites nettoyer, ça c'est clair, il va falloir un petit nettoyage. Hein. Mais avant de vous attaquer à ça, qu'est-ce que vous allez faire?
Peut-être des touches d'essai.
Alors, effectivement, la retente, ça veut dire traiter quoi d'abord? Alors, le châssis, mais le châssis tient quoi?
La toile,
voilà. Hein. C'est-à-dire que, avant toute chose, parce que vous pouvez toujours commencer à vous mettre là-dessus, mais les déformations seront toujours là, la toile sera toujours brinque-ballante. Donc, ce qu'il faut, avant toute chose, c'est traiter ce qu'on appelle le support. Parce que si vous commencez à faire des choses alors que votre support est en mauvais état, c'est un cautère sur une jambe de bois. Hein. Donc, il faut déjà s'occuper du support. Après quoi, vous allez pouvoir vous occuper de ce qu'on appelle la couche picturale. Hein. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Hein. sur un truc comme ça, comme sur un tableau sur bois qu'on a vu tout à l'heure. En général, il y a deux types de restaurateurs qui travaillent, les restaurateurs support et les restaurateurs couche picturale. Ce n'est pas le même métier. Parce que vous ne travaillez pas sur une toile ou sur un bois de la même manière que sur la couche picturale d'une œuvre. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, vous avez à connaître le bois et ses réactions. Dans l'autre, la toile et ses réactions. Pas du tout la même chose que de repeindre une main ou de reprendre une carnation sur une joue. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout la même chose. Donc la première chose, ça va être évidemment de vous occuper du support. Et pour vous occuper du support, qu'est-ce que vous allez faire ?
Arriver à la sortie.
Pardon ?
Il faut sortir la toile du
châssis. Voilà, c'est ça. Il faut généralement déclouer la toile du châssis. Vous allez donc mettre, si vous voulez, la toile à plat. Et vous allez pouvoir travailler votre support. Alors, tout à l'heure, on reparlera de ça. Mais vous allez essayer finalement de remettre le support en meilleur état. Parce que c'est quand même entre les traces ici, et puis le côté vraiment pas plan, c'est pas terrible. Hein. On sent qu'il y a des problèmes.
Hein. On le change, le châssis.
Pardon ?
On le change,
le châssis. Châssis. Alors, très longtemps, on a changé les châssis. On a changé les châssis. Très longtemps, on a changé les châssis. On les a enlevés. Et maintenant, c'est de moins en moins. Maintenant, de plus en plus, on les garde. Moi, j'ai connu cette évolution. Au départ, il y a 40 ans, quand j'ai commencé dans le métier, les châssis, on les éliminait, on les remplaçait par des nouveaux. Et aujourd'hui, de moins en moins, souvent, on garde les châssis. Quelquefois, d'ailleurs, on garde les châssis, on les complète. Par exemple, il manque une épaisseur, on en remet, etc. Alors, quelquefois, s'ils sont en mauvais état, complètement mangés, etc. Voilà. Hein. Quelquefois aussi, on les enlève, on les remplace par des autres, mais on garde les anciens châssis. Hein. Si vous voulez, de moins en moins, on élimine les châssis anciens. Voilà. Pour la question de déontologie, parce qu'une œuvre, c'est pas uniquement que l'avant, l'arrière aussi.
Et alors, on refait un châssis en bois identique ?
Alors, pas forcément toujours. Pas forcément. Non. Et quelquefois, les châssis qu'on refait sont pas forcément de la même taille que les châssis anciens. Ils peuvent être plus larges, ils peuvent être plus épais, ils peuvent être... Voilà.
Mais ça ne dénature pas ?
Ben, justement, c'est ce que... Si vous voulez, il fut un temps, de toute façon, ce qui compte, c'est l'avant, c'est pas l'arrière. Donc, le châssis, on l'enlevait, puis on mettait un beau châssis tout neuf, très beau, très bien, très sain, parfait, et tout allait très bien. Mais on s'est dit, évidemment, mais finalement, une œuvre, c'est pas que le devant, c'est l'arrière aussi. Donc, le châssis, même si un châssis, on va peut-être pas s'enthousiasmer de vous voyez, devant un châssis, mais un châssis, quand même, un élément de l'œuvre, si vous voulez. Hein. Vous savez, c'est comme ces immeubles qu'on restaure, on restaure l'extérieur, l'intérieur, on fout tout en l'air, et puis, ben, finalement, il reste que la façade. Hein. C'était un peu du façadisme. Aujourd'hui, encore une fois, on change beaucoup son fusil d'épaule, on garde de plus en plus les châssis anciens. D'accord. Et si vraiment on ne peut pas...
S'ils sont en bon état.
S'ils sont en bon état. Hein. Mais quelquefois, encore une fois, même s'ils ne sont pas en bon état, ben, on reprend une traverse, on la complète, on la rajoute, tout ça, j'en parle. Hein. L'idée n'est pas d'éliminer tous les éléments anciens. Voilà. Et puis, ben, une fois que vous avez traité le support, vous allez pouvoir traiter la couche picturale et ça va donner ça. Ça, c'est la même peinture. Ça, c'est ce que vous venez de voir, quelque chose comme, je ne sais pas, 2 ans après restauration. Qu'est-ce que ça représente ?
Sainte-Madeleine.
C'est Sainte-Madeleine, hein ? Effectivement. Hein ?
Donc, elle n'était pas de profil, comme
on pourrait dire. Non, pas de profil, mais enfin, un peu comme de quart de profil, on va dire. Hein ? Voilà. Alors, vous voyez que quand même, hein, j'ai dû mettre... Voilà, hein, voilà, avant, après, il y a une différence. Hein. Mais ça veut dire que très souvent, effectivement, quand on voit ça, on se dit, bon, c'est que de mon fichu, vraiment, là, c'est réglé. Hein. Alors, évidemment, si vous mettez ça entre les mains de ce qu'on appelle dans le métier un écarisseur, de quelqu'un qui se dit restaurateur et qui ne l'est pas, vous allez obtenir une catastrophe, ça, c'est clair. Hein. Mais surtout, je vous le dis, si vous avez des œuvres chez vous, ne confiez jamais une peinture restaurée à n'importe qui. Parce qu'alors là, c'est le drame. Hein. Vous pouvez faire bousiller une peinture en moins de temps qu'il faut pour le dire. Une peinture, c'est compliqué, c'est délicat, c'est fragile. Alors, si vous confiez ça à quelqu'un qui ne sait pas faire, alors là, vous bousillez, et de manière irréversible, hein, une œuvre dont vous croyez peut-être que c'était fichu, mais dont vous obtenez en fait quelque chose de parfait.
Hein. C'est simplement le nettoyage qui a redonné
tout. Ah, bien sûr, tout était là, simplement conservé dans le collection, des conditions. Ben oui, mais elle était là, mais vous la devinez. Mais vous mettez les couches de vernis pendant 3 siècles, l'encrassement des cierges, quelques petits champignons, voilà ce que ça vous donne. Voilà. C'est la vraie. Ben c'est la vraie. Ah, c'est la vraie. Et là, c'est-à-dire ce que vous avez là et là. C'est-à-dire que, en plus, il y a peu de manque. Vous le voyez, elle est abîmée, mais il y a peu de manque. C'est-à-dire que la couleur que vous avez là, elle est là. Le restaurateur n'a rien repeint. Ce n'est pas de la repeinture, attention. Hein. La restauration, vous avez bien compris déjà la semaine dernière, ça n'est pas de la repeinture. Hein. Ce que vous voyez à droite était déjà entièrement à gauche. Simplement dans des conditions de conservation telles que ça ne veut pas. Tout simplement.
Qu'est-ce que c'est sur ces genoux, une espèce de pointe
hein. C'est le tissu.
Ça, c'est son...
son
vêtement. C'est son râpé. Là, il y a un crâne.
Oui.
Un crâne, parce qu'elle a toujours un crâne. Hein. Pour... Hein. OK. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre qui est attribuée à Louis Finson, qui était un artiste actif en Flandre, on va dire, hein, au XVIIe siècle. Et c'est une sonnette pénitente, sans doute d'après, d'après Caravage. Hein. En plus, c'est pas n'importe quoi. Hein. Troisième petit dossier. Alors là, on va aller plus vite parce qu'on commence à connaître. Bon.
Les étapes précédentes.
Techniquement, c'est quoi ?
Une toile.
Deux, qu'est-ce que ça représente ? Facile. La Vierge, l'enfant.
Et Saint-Jean-Baptiste.
Très bien. Et une époque à peu près ? 16e. Oui, alors vous allez voir, c'est à la fois pas mal et pas très juste. Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est plutôt plus tard, mais en même temps, ce que vous dites n'est pas faux. Vous
avez compris ?
Pardon ? D'une certaine manière. Alors, la pathologie, c'est quoi, là ?
C'est que ça a déjà été restauré. Il y a le bas.
Pardon ? Le bas a déjà été... Il y a peut-être ici ce qu'on appelle une fenêtre. C'est effectivement quelqu'un qui, un moment ou un autre, a fait un petit essai, là, plus ou moins heureux, d'ailleurs. Effectivement, il y a eu, visiblement, là, une petite tentative. Je pense que vous avez raison. Autrement, la pathologie, un peu la même que la toile précédente, hein, mais en moins grave, c'est quoi ?
Humidité, probable.
Il y a eu sans doute l'humidité, c'est détendu, oui. Déformé.
Une coupure au milieu de la toile.
Alors, il y a sans doute là, et c'est dû à quoi peut-être ça ?
Mais est-ce qu'il aurait été plié ?
Alors, ça pourrait être à la pliure, ça pourrait être aussi telle de toile et qu'elles sont cousues entre elles. Mais il y a une autre raison. C'est la traverse. Vous voyez ici très bien. La traverse du châssis. Hein, voilà. Hein, il y a le châssis derrière, donc c'est la traverse du châssis. En fait, très souvent comme ça, le châssis s'imprime dans la toile. Hein, d'accord ? Voilà.
Le soleil a fait son
effet. Pardon ?
Le soleil est venu au
rendez-vous. Oui, alors c'est peut-être aussi autre chose, hein, parce que il en est des peintures un peu différemment des dessins, par exemple. Hein. La lumière n'a pas le même impact hein, sur une peinture comme ça et sur un dessin, par exemple, sur une aquarelle. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être regarder la diapo suivante. Hein. Là, vous avez la même diapo, mais avec un type de lumière un peu différent, hein, qui vous montre quoi, cette fois, au niveau de la couche picturale. La diapo précédente montrait plutôt le support. Là, voilà, là exactement, le support en toile. Hein. Là, on voit plus la couche picturale. Qu'est-ce que vous voyez, finalement ? Alors, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, une partie ici qui, visiblement, a déjà été nettoyée. Bon. On voit dans le fond un paysage, on devine, mais au niveau de la couche picturale, qu'est-ce que vous verriez comme pathologie ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Là, tout va bien, là ?
On dirait qu'il y a,
il y a des pigments.
On dirait qu'il y a usure. Par exemple, à quel endroit ?
Le bleu, là.
Ça, c'est usé ?
Non, en dessous. En dessous.
Apparaissant bleu. Par exemple, à ça ?
Oui.
Alors, ça, c'est dû aussi à des problèmes de, comment dire, de flash, hein, de lumière sur la peinture. Hein. Mais effectivement, il y a des parties qui semblent usées. On va voir que ce n'est pas forcément ça, d'ailleurs, mais ça paraît usé, effectivement. Quoi d'autre ? À part les usures, il n'y a pas de problème. On accroche ça. Pardon, encrassé.
Il y a des lacunes.
Des lacunes, à quel endroit, par exemple ?
La jambe de Jésus.
Donc ça, là, il y a des lacunes. Est-ce que c'est la seule solution ?
Non.
C'est quoi les autres lacunes ? Les autres solutions ? Alors, vous parliez d'encrassement. Ça, sans doute, c'est visiblement assez sale. Alors, on dirait effectivement, dans des parties comme ça... Comme ça, là, là, mais aussi là. Hein.
Oui.
Regardez toutes ces espèces de parties jaunasses, marronâtres. On dirait une espèce de moisissure. Qu'est-ce qui a pu se passer là ?
L'humidité.
L'humidité. Mais l'humidité, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Elle a peut-être fait tomber les couches.
Alors, soit elle a fait tomber les couches, mais ça n'est pas ça. L'idée, là, elle a fait autre chose. Elle a fait quoi ? Qui donne une espèce d'opacité, vous voyez là. Qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'il y a tout.
Alors que
en fait, la peinture, elle est intacte.
Il y a certains produits qui ont, en particulier, des, à partir d'une résine qu'on a mis partout pendant un temps, marron, et qui mangeait la peinture par-dessous.
Alors, là, ça n'a pas mangé, mais on a mis effectivement quelque chose. Qu'est-ce qu'on met souvent sur les peintures ?
Mais, oui, mais c'est
alors, qu'est-ce que l'humidité, là, a fait sur le vernis ? Vous m'avez dit, il y a un problème.
La couche du vernis, ça a décollé la couche.
Alors, ça n'a pas décollé. En fait, la couche picturale est restée, la couche de vernis est restée, tout est là, il n'y a pas de problème, c'est resté en place. Hein. Mais qu'est-ce que l'humidité, elle a fait ? Alors voilà, elle a opacifié le vernis, en faisant quoi ? Cette couche d'humidité ?
Une transformation chimique, est-ce que...
Alors voilà, il y a un problème de transformation chimique, c'est-à-dire que soit l'humidité est enfermée derrière le vernis, et elle fait opacifier le vernis devient opaque, brunâtre, si vous voulez, il ne laisse plus passer la lumière, on ne voit plus la peinture qui est en dessous, soit quelquefois ça micro-fissure le vernis, l'humidité, si vous voulez, fait que le vernis se fissure, hein, et au lieu qu'il soit bien étal, bien transparent, puisqu'il est complètement fissuré, ben, on voit plus ce qu'il y a derrière, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'en fait, là, vous avez tout. La peinture est intacte, hein. Simplement. Le verre. Donc, il n'y a pas de manque. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas du tout des manques. Hein. Ça existe, avant, c'est caché par un vernis qui est... voilà, enfin, on pourrait dire ça.
Pourquoi est-ce que certaines parties ne sont pas touchées ?
Ben, parce que certaines parties ne sont pas faites forcément avec la même peinture de base. Donc, les vernis ne réagissent pas de la même manière sur des peintures différentes. En plus, il y a visiblement eu là, effectivement, des essais de restauration. Ça arrive souvent. Hein. C'est-à-dire que très souvent, on remarque que ces peintures ont été parfois l'objet de restauration partielle. Par exemple, ça, c'est dans une église. Et puis, vous avez eu un jour un restaurateur, avec mille guillemets, hein, qui s'est dit « Oh, ben tiens, je vais remettre ça en état. » Mais quand il a remis ça en état, il a nettoyé là où il voyait les bonhommes, mais pas le reste. Donc, c'est nettoyé là, sur les personnages, mais pas le reste. Parce que de toute façon, je n'ai pas nettoyé là où il n'y a rien. C'est comme la Vierge Marie, le Christ et l'enfant et le petit Saint-Jean, pas le fond. Hein. Donc il nettoyait ceux qui voulaient voir. Le reste, on le sait tel que c'était. Donc très souvent, vous avez, et ça se voit bien en premier plan, hein, des choses nettoyées, des choses qui ne le sont pas, parce que des restaurateurs à gogo, si vous voulez, ont fait plus de mal que de bien. Alors je crois que j'ai une... Voilà. Ben, là, vous avez une vue qui montre bien, je crois, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, là, vous voyez tous ces vernis. Alors, ça, c'est prêt avec un type de photographie qui permet de, évidemment, bien mettre les choses en évidence. Mais vous voyez partout ce vernis très opaque, d'accord ? Et vous voyez que là, le restaurateur a commencé à enlever le vernis et retrouve la couche picturale. Impressionnant, hein ? Alors on se dit, oh là là, il manque tout, c'est l'horreur, c'est épouvantable. Pas du tout, tout est là. Alors, il y a bien des petits endroits où il y a des petits problèmes. Hein. Voilà. Mais enfin, c'est minime. Tout est là, tout est là. Simplement, c'est couvert par un vernis qui a jauni, qui a ces micro-fissures et cette humidité qui a chez le vernis, on appelle ça du chancy. Ce que vous avez là, c'est du chancy. C'est très spectaculaire. On se dit, c'est comme pour la Sainte-Marie-de-Touraine, on se dit, c'est épouvantable, on ne reviendra jamais à rien. En fait, ça va. Alors là, c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure encore. Un tableau comme ça, là, je ne suis pas restaurateur, hein, mais j'ai vu le restaurateur s'attaquer des trucs comme ça, très tranquillement, très légèrement, et on y arrive très bien. Hein. Et à la fin, ça vous donne ça. Voilà. Alors là, le tableau est un peu assombri, hein, mais les photos ne sont pas toujours excellentes. Et voilà, le tableau restauré, final, etc. Encore une fois, là, la photo est un peu sombre. Hein. Mais vous voyez, c'est quasi intact. Alors, pour tout vous dire, c'est un... Alors, voilà l'avant et après, hein, grosso modo. Hein. Et c'est une œuvre qui a été faite par une femme peintre du 19e siècle, Madame Blanchard. Donc, c'est un tableau du 19e siècle, mais qui copie un artiste du 16e siècle, Sabatini. Hein, enfin, fin 16, début du 16e siècle. Hein. D'où le fait que vous avez l'impression d'avoir une peinture ancienne, mais elle est plus récente que sa date d'origine. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien.
L'arrière-plan est très sombre.
Oui, mais encore une fois, je vous l'ai dit. Hein, là, la photo, vous savez, les prises de vue d'un truc à l'autre ne sont pas les mêmes. Hein. Donc là, la prise de vue est sombre. Et, voilà. Le tableau est sûrement plus clair que ça dans la réalité. La prise de vue, là, est un peu, à mon avis, charbonneuse. Alors, quatrième petit dossier. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors d'abord, oui, support, est-ce que vous avez une idée ? Toile, c'est de la toile, hein ? Toile, ça représente... Alors, oui, pardon, quelle date et quelle aire géographique ?
Italie.
Italie, absolument. Date ? Renaissance, très bien. Et qu'est-ce que ça représente ? Le Christ.
La femme adultère.
Et la femme adultère. Hein. Le Christ et la femme adultère. Vous savez, le moment où le Christ dit aux gens qui veulent l'habiter, la femme adultère, que celui qui n'a jamais baissé lui jette la première pierre. Il va même l'inscrire sur le sol. Pour ça, il est en train de désigner le sol. Il va mettre ça au sol devant la femme. Et vraiment, tout le monde va se barrer, la tête basse, en se disant « il a raison ». Bien. Alors... On a un tableau, effectivement, de la Renaissance italienne.
Vous nous l'avez montré.
Je vous l'ai montré, et vous devriez même savoir quel est le peintre. Pour ceux qui se rappellent de l'atelier précédent. Il s'appelle Lorenzo Lotto. Hein, voilà. Et alors, ce tableau qui appartient aux collections du musée du Louvre, qu'est-ce que vous y voyez ? Qu'est-ce que c'est que cette curiosité ?
On a l'impression qu'on l'a replié.
L'encadrement.
Parce qu'il est entier, mais...
On dirait qu'on l'a coupé.
Ou alors on l'a découpé, on a retrouvé le tour. C'est plus difficile.
Ah, une histoire de changement de cadre, c'est-à-dire... Il était plus petit, on a voulu faire plus grand. Eh bien, c'est ça. Effectivement, le tableau à l'origine avait quelle taille ? Le cadre intérieur. À l'origine, le tableau, c'était ça.
Ah, et alors on l'a prolongé.
Et puis à une époque, on a trouvé que c'était un peu kéké, comme on dit dans la région, hein, et que ça respirait pas assez. Vous voyez, les figures étaient très beaux. Alors on l'a grandi. Donc on a tout autour remis, agrandi en mettant de la toile tout autour, puis on a peint tout autour. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quand on restaure un tableau comme ça et qu'on se rend compte que le tableau, à l'origine, était plus petit que ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ?
On le remet à sa taille initiale.
On le remet à sa taille initiale ? Pas forcément.
Et déjà, comment on fait pour l'agrandir ? Parce que la toile...
Avec comme une aiguille et quelques fils.
Ah oui, c'est cousu.
C'est quelqu'un qui n'a jamais cousu un fil qui vous le dit, hein, mais ça se fait. Hein. Voilà. Hein. Mais ça se fait, oui, ça se fait. Ça agrandir une toile, je ne sais pas. Alors, effectivement, quand on trouve ça, il y a deux solutions. Soit on remet au format... Soit on ne remet pas au format. Et si on ne remet pas au format, le problème, c'est quoi ? Pardon ?
La permanence du cadre.
Voilà, la permanence du cadre, c'est un cadre, ça ?
Enfin, non, du très.
Ouais, attention, hein, il faut utiliser les bons termes. Hein. Voilà. Alors, le châssis, il est derrière. Vous ne le voyez pas, le châssis. Hein. On va dire plutôt la question de cet agrandissement. Quoi. Ce qui pose problème, c'est l'agrandissement. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je veux voir ce beau tableau avec cet agrandissement qui n'a pas l'air terrible, hein, esthétiquement parlant, voilà. Hein.
On l'enlève.
Alors, on l'enlève. Hein. Oui, bon, donc, l'enlever des ciments, c'est la solution. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième solution ? Et d'abord, est-ce qu'il y aurait... est-ce que enlever est la seule possibilité ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas très joli. Puis le problème aussi, c'est l'agrandissement, c'est quoi ?
Mais c'est son histoire.
Voilà, l'agrandissement, c'est son histoire, c'est l'histoire du tableau.
Et on fait tout un dossier de photographie.
Alors, on fait tout un dossier de photos, ok.
Mais on laisse les marques anciennes.
Et on laisse les marques anciennes. Et est-ce qu'il n'y a pas une solution pour tout garder ? Pour garder l'agrandissement et pour ne pas... voilà, dénaturer d'abord, parce que exposer ça sur un mur du Louvre, je trouve que ça ne le fait pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça très chouette, quoi. Cet agrandissement, il est intéressant parce que ça nous montre que le tableau a changé de forme. Ça montre un problème d'histoire du goût. Hein. Il y a une époque, on n'aimait pas du tout ce genre de tableau resserré, avec des personnages densément pris dans le forme. On voulait que ça respire. C'est pour ça qu'on l'a agrandi. Hein.
À quelle époque on l'a agrandi ?
Vraisemblablement au XVIIIe siècle. Hein.
Mais on peut quand même mettre un cadre
autour. Eh bien, voilà. Exactement. La solution qui a été trouvée, c'est de mettre un cadre qui cache l'agrandissement. Donc, on n'élimine pas, on le garde. Mais derrière le cadre. Donc, vous avez l'agrandissement et l'œuvre. Mais quand l'œuvre a son cadre, un cadre qu'on est devant, donc, hein, le cadre va cacher l'agrandissement. et pas de problème. D'accord ?
Ah oui.
Parce que le tableau, c'était ça à l'origine. Hein ? Aujourd'hui, encore une fois, c'est ça. Mais à l'origine, c'était ça. C'est quand même pas du tout pareil comme perception. Et la perception originale, c'est celle-là. Donc elle est quand même mieux. Alors voilà, hein, donc le tableau était décidément comme ça, et c'est une œuvre de Lorenzo Lotto, hein, le Christ, sa femme adultère. On avait vu effectivement. Et vous voyez que là, avec le cadre, bah, le cadre cache la partie agrandie, et tout le monde est content. On n'a rien enlevé. Il suffit de décadrer pour voir ce qui a été fait. D'accord ? Ok ? Par parenthèse, vous vous rappelez de ça ? Je crois que je vous l'avais montré aussi.
Oui,
bon,
oui, hein, oui,
je ne vous dis rien. Hein, je crois. Hein. Oui, oui. Eh bien, ce tableau, c'est pareil. Quand vous le voyez au Louvre, il est comme ça. Mais si vous lui enlevez son cadre, il est comme ça. Parce qu'à une époque X, on a agrandi. Parce que c'est pareil, on n'aimait pas ces portraits qui étaient trop engoncés. Alors, hop, on a mis les choses autour. Alors, on a fait l'entourage. Eh bien, on a décidé de garder l'entourage. Mais quand vous le voyez au Louvre, il est comme ça. Parce que son cadre cache l'entourage. C'est quand même beaucoup mieux, hein. Mais au 19e, on préférait nettement ça. Si vous voilà. Vous voyez comme ça au Louvre, l'entourage est derrière, il est caché, il est là, on ne l'a pas enlevé. Mais voilà. Hein. D'accord ? Entre parenthèses, vous connaissez ça.
Oui.
Léonard de Vinci. Quand vous allez au Louvre, ça, vous voyez ça. Hein. Mais à vrai dire, si on enlève le cadre, vous verrez ça. Tiens, la Vierge au rocher. Mais vous voyez qu'à une époque, ici et là, on a agrandi. Alors, même chose, au niveau de la restauration, l'agrandissement est tout à fait visible. Hein. Et pour cacher l'agrandissement, eh ben, le cadre, le recouvre, vous ne le voyez pas. Mais il est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc l'idée, mais rappelez-vous, on l'a vu déjà pour les sculptures, hein. L'idée n'est pas d'éliminer l'histoire de l'œuvre, mais de la garder au maximum. C'est ce qu'on fait dans ce genre de cas. OK ? 5. Voilà un tableau de Nicolas Poussin. Tout va bien, il n'a pas l'air en trop mauvais état, il présente un dieu fleuve dans un paysage, tout va bien. Moi, il y a une chose qui me chagrine un peu quand je vois ça.
Il n'y a pas un excès de jaune ?
Alors, oui, d'abord, il est un petit peu jaune, mais ce qui me chagrine, c'est en termes de sujet. Un paysage avec un dieu fleuve.
Bon, c'est une petite marque.
En termes de sujet, il n'y a rien qui vous... Nicolas Poussin était des artistes peut-être les plus, comment dire, subtils du XVIIe siècle.
Bah, le
on
dieu.
Il a rajouté un personnage ? Non.
Non. Moi, je trouve que ça ne raconte rien. Nicolas Poussin est un artiste intellectuel. Je veux dire, chaque tableau de Nicolas Poussin, vous pouvez écrire 3 livres de philosophie dessus. Là, on a un paysage avec un dieu fleuve.
Il y a eu
un
repas.
Pardon ?
Il y a eu un repas ?
Alors, il y a eu un repas, mais ce qu'on remarque, c'est que si vous avez là une œuvre d'un artiste parmi les plus subtils du XVIIe, hein, et là, il y a un arbre avec un paysage avec quelques arbres, un dieu fleuve, deux amours, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quand même. Hein.
C'est inachevé,
non ? Ah, ça pourrait être une solution, mais il y a peut-être une autre solution. Quand on rend un tableau comme ça, un des peintres les plus complexes, les plus subtils, les plus riches du XVIIe siècle, qui vous propose un dieu fleuve devant trois arbres. La belle affaire. Hein. C'est tout à fait de lui.
Une fausse attribution.
Pardon ?
Une fausse attribution.
L'attribution est tout à fait bonne.
C'est bonne, bon.
Mais en termes de restauration, etc., il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pardon ? Non, pas de repas.
Un découpage ?
Pardon ?
Un découpage ?
Un petit découpage, lequel ?
Ah, alors est-ce qu'il aurait un fondant, par exemple ?
Ah ! Quand on regarde un homme comme ça, qu'on connaît un peu Nicolas Poussin, quand on sait que n'importe quel homme Nicolas Poussin, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est un artiste très riche, il y a beaucoup de choses, il prend en compte l'Antiquité, c'est des sujets délicats, compliqués, savants, etc. Oh, mais là, il n'y a rien, quoi.
On en a fait deux.
Pardon ?
Il a été partagé en deux ?
Il a été coupé en deux. Est-ce que vous avez là ? Bien sûr, c'est une œuvre de Nicolas Poussin. Parfois, il est même en assez bon état, même si un peu jaune, hein. Sauf qu'une œuvre de Nicolas Poussin qui dit rien, ça ne va pas. C'est comme si vous ayez un Michel-Ange qui a besoin d'un pot de fleurs, si vous voulez, ça ne va pas. Quoi. Nicolas Poussin, ça dit quelque chose. Là, ça ne dit rien. Il y a un mec assis avec un chien et deux petits. La belle affaire, hein, ça ne dit rien, si vous voulez. C'est pas de la peinture de Nicolas Poussin, ça. Madame Blanchard avant peut-être, mais pas Nicolas Poussin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un hic.
Et le hic, c'est que le tableau était plus grand et qu'il a été coupé. Qu'on a coupé ce tableau, ça c'est un morceau d'un tableau continuel. Voilà, ça, ça arrive. Il se trouve qu'on a trouvé l'autre morceau. C'est ça. Il y avait, depuis fort longtemps, dans une collection française, le musée Fabre à Montpellier, ceci. Et on a rapproché il y a quelques années ça du tableau précédent, et on a pu recoller les deux morceaux. Là, vous avez la peinture reconstituée. Ah, donc, ben voilà. C'est-à-dire que là, vous aviez un dieu fleur dans un paysage, c'est-à-dire en gros rien, parce qu'un gus dans le paysage, je veux dire, c'est pas grand-chose. Là, vous avez Vénus et Adonis. C'est-à-dire un thème gréco-romain qui, en gros, est une histoire philosophique sur la question de l'amour. Ça, c'est quand même un peu plus consistant. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Voilà du plus simple. Hein ? Eh bien, à une époque X ou Y, un antiquaire qui avait dû avoir le tableau en main s'est dit « Tiens, plutôt que de vendre un poussin, je vais en vendre deux. » Donc il a fait couper le tableau en deux. Ça permet de vendre le tableau plutôt qu'un. Ça s'est énormément fait. Énormément. Signature. Il n'y a pas de signature. Ça, la signature. Poussin ne signait pas toujours, loin de là. Hein. Et puis, de toute façon, les signatures, ça se copie. Et les antiquaires n'avaient aucun problème à copier des signatures, oui, si c'était nécessaire.
Il y a une histoire de photos, parce qu'il est plus jaune, il est vert à gauche, maintenant.
Oui. Les photos ne sont pas forcément idéales. Et puis, les tableaux n'ont pas forcément vieilli de la même manière non plus. Hein, puisque, celui de gauche était conservé dans une collection particulière à New York, celui de droite au musée Fabre de Montpellier depuis le 19e siècle. Donc, l'un et l'autre ont vécu leur vie. Hein, voilà.
Ça pourrait pas être une censure venant de, je sais pas,
Là, en l'occurrence, je pense pas.
Et quand même, peut-être, à un moment, l'Église est devenue assez...
Vénus et Adonis, de toute façon... Là, de toute façon, la partie droite comme la partie gauche, pour l'Église... Mais si Nicolas Poussin était plutôt un artiste, assez respecté, respectueux... Non, là, il n'y a pas de problème. Au pire, à un moment, on aurait pu repeindre ses nus, mais ça n'a même pas été fait. Non. Oh, l'Église, vous savez, ça va parfois être un peu radical, mais quelquefois aussi très laxiste. Hein. Non, faut surtout y voir l'appât du gain. Voilà.
Comment ça se négocie, la récupération?
Eh bien, le musée Fabre de Montpellier a proposé à l'acheteur, enfin, au collectionneur américain, de lui racheter son morceau de tableau, et il a accepté. Voilà. Et alors, aujourd'hui, vous allez voir à Montpellier ça. Voilà. Voilà le tableau qui a été complètement constitué. Voilà, le tableau original. Donc, c'est un tableau tout en longueur qui, décidément, a été coupé en deux. Vous devinez encore un peu, d'ailleurs, au centre, hein. On devine qu'il y a eu un petit problème.
On raccorde comment ?
Alors là, ce qui a sans doute été fait, je ne connais pas la question de la restauration de la toile, mais je pense qu'il a été fait, c'est qu'on a rentoilé. Ça, c'est une chose que l'on fait parfois. Quand une toile est en mauvais état, plus très solide, on en recolle une autre derrière. Alors ça, c'est pareil, on ne le fait pas toujours, et même, je dirais, de moins en moins. Mais là, je ne vois pas trop quand même d'autres solutions. C'est-à-dire qu'on redonne un support plus solide et là plus commun à deux éléments. Donc je suppose que c'est ce qui a été fait, qu'on a remis les deux peintures sur une toile commune.
Quelle est la dimension ?
C'est assez long, ça doit faire à peu près 1,20 m, quoi. C'est un tableau tout en longueur. Il y a aussi le fait qu'à un certain moment, on n'a pas aimé ces tableaux tout en longueur. Ce n'est pas très à la mode. Puis aller caser un truc tout en longueur sur votre buffet, c'est compliqué. Hein. Vous coupez en deux, c'est quand même plus casable. Il y a aussi ça, vous voyez. Il y a aussi le problème des goûts. Je vous montre ça parce que souvent, on oublie que la restauration, avec des guillemets, hein, ce n'est pas que de maintenant. Parce qu'à l'époque où on a fait ça, c'était peut-être quelque part une restauration de l'époque. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? La restauration, c'est pas simplement nous au 21e siècle qui restaurons les œuvres. On a peut-être au 18e siècle, entre guillemets, restauré. On est intervenu sur l'œuvre. L'intervention a été de couper en deux pour faire des formats plus vendables et du tableau quelque chose de plus négociable. Hein. Donc il faut aussi penser que ces œuvres, elles ont finalement une histoire derrière elles, et qui peut être assez ambiguë, étrange, curieuse. Pourquoi je vous passe ça ? C'est quoi ça ?
C'est
Luna.
C'est
Vulcain. Pardon ? C'est effectivement. Alors, c'est quelque part. Ça pourrait être Vulcain, vous avez raison.
Ou c'est un forgeron.
Ou c'est tout simplement un forgeron. C'est plutôt uniquement un forgeron.
Ah bon ?
Il est au Louvre. C'est un tableau qui est au Louvre de qui ?
Le nain.
Le nain.
Hein, c'est un tableau de l'un des Le Nains. Vous savez qu'il y a trois frères Le Nains, hein, Louis, Antoine et Mathieu. Et ça, c'est de Louis ou d'Antoine, sans doute. On a beaucoup de mal à reconnaître le style de chacun des trois artistes. Bien. Et ça présente une forge. Pourquoi je vous montre ce tableau ? Alors, nous parlons de la restauration.
Mais il était coupé en deux.
Alors, il n'a pas été coupé en deux. Alors, je ne vous montre pas que des tableaux coupés en morceaux. Ah, on a peut-être rajouté quelque chose. Tout à l'heure, je vais montrer les tableaux qu'on a, on a ajoutés. Je vais montrer les mots qu'on a coupés et d'autres, on a rajouté des morceaux. Hein. J'essaie de vous montrer par là des tas de cas de figure possibles. Là, qu'est-ce qu'on a fait ? Si vous regardez, vous pouvez peut-être trouver.
On a repeint quelque chose ?
Ouais. Quoi ?
Un personnage.
Pardon, un personnage. Oui. Mais alors, lequel ?
À gauche.
À gauche. On aurait repeint celui-là.
Je dirais plutôt à droite.
À droite, celui-là.
Oh, c'est difficile à placer quand même.
Difficile à placer.
La femme.
La femme est repeinte.
Ah, une espèce de figure.
Oui.
Tous vers la gauche.
Tous.
Sauf le forgeron. Ah, bah le forgeron et la dame.
Ah,
La femme ne regarde pas le forgeron.
Alors,
le forgeron et la dame nous regardent.
Le forgeron et la dame nous regardent.
Oui.
Ils ne sont pas les seuls à nous regarder.
Et
le petit... Il y en a même deux. Il y a deux petits-enfants ici qui nous regardent aussi.
Donc, c'est les deux autres qui nous regardent. Donc, ce sont les enfants qu'on a rajoutés ?
À votre avis ?
Ou les deux.
On aurait rajouté ces deux-là.
C'est difficile de rajouter ces deux-là, quand même.
Ça fait peut-être beaucoup. En fait, c'est un détail qui a été ajouté. Sur un de ces deux-là.
De ces
deux ? De droite, alors.
De ceux de droite. Enfin, un gros détail, mais un détail.
La main.
Pas la main.
Le col.
Pas le col.
La barbe.
Pas le chapeau, pas la barbe.
Le siège.
Pas le siège.
Qu'est-ce qu'il tient ?
On a changé le regard ?
Un peu plus. En fait, on a complètement repeint cette tête. Effectivement, dans le tableau, à l'origine, tous les personnages regardaient le spectateur, comme pour l'inviter dans le tableau, celui-là, sauf un, celui de droite, qui lui regardait de manière perpendiculaire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Et puis quelqu'un, à une époque, X ou Y, a repeint sa vie. Je ne sais pas si vous voyez, mais le style est beaucoup plus... On a l'impression qu'il est en train de manger de la barbe à papa, le gosse. Là. Le bonjour, c'est pas aussi subtilement fait que, par exemple, ça ou ça. Hein. Regardez comment c'est fait, ça. C'est extraordinaire. Il y en a, vous avez un barbouilleur. Quoi, hein. Donc, à une époque X, Y, on a repeint le visage, là. À l'origine, on regardait vers nous. Le seul qui ne regardait pas, c'était lui. Ça, c'est... Il y a en fait des regards perpendiculaires. Tout le monde regarde vers vous. Il y en a un qui regarde perpendiculairement. Et lui, il regarde un peu entre les deux, si vous voulez. En gros, il y a quelqu'un qui a repeint ce visage de manière un peu lourdeau, pataude, sans comprendre l'espèce de radicalité qu'avait mis le nain. Personnage qui regarde de face ou de côté. Là, le gosse, il regarde entre les deux, quoi. C'est pas compris. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus, ça a été repeint... Oh, il n'y a pas que l'éclairage. Ça a été repeint de manière, encore une fois, regardez ses gros joues. Enfin, c'est stylistiquement, si vous voulez, c'est pas du niveau de ce qu'il y a. Regardez la subtilité incroyable hein, de ça. Vous voyez ça ? Vous avez vu ça ? Vous n'avez pas ça, là. C'est barbouillé, si vous voulez. C'est pas de la peinture, ça.
Pourquoi une intervention perverse ?
Alors, on s'est posé la question. Visiblement, il y a dû avoir... qu'est-ce qu'il y a pu avoir, là ?
Voilà,
on pensait tout simplement qu'il y a un trou dans la toile. La toile, elle a dû être trouée là. Bon, alors on a repeint. Et puis, la personne qui a repeint a fait ce qu'elle pouvait. Et vous voyez, on a là une sorte de... Regardez par exemple comment, notamment pour ce gosse-là, comment la lumière joue avec subtilité sur le visage. C'est pas du tout ça. Là, vous avez tout le gros joue tout éclairé. C'est moche. C'est pas le nain, ça. C'est pas le nain. C'est moi, éventuellement. C'est pas le nain. C'est pas de la peinture, ça. Du barbouillage. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, on a là quelque chose de vraiment raplapla. Et la radiographie, là, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Je n'ai pas pu la procurer. Mais la radiographie montre bien que dessous, il y a la tête de quelqu'un qui regarde. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait quand
mais
on
si
voit
la
ça
la toile a été trouée, ça doit se voir.
Ça se voit à la radio.
À la radio.
Hein, la radiographie. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça?
Il faut laisser comme ça.
Ben voilà, on laisse comme ça. C'est le parti qui a été pris, il y a eu des discussions, et il a été décidé de laisser comme ça. C'est pas que ce repeint soit merveilleux, moi depuis que je sais ça, c'est un mot que j'adore, j'ai beaucoup de mal avec cette tête, que je trouve lourdaude, moche, pénible, blessante, hein. Voilà. Je trouve que c'est vraiment lourdin, quoi. Je trouve que c'est pas subtil, quoi. C'est pas trop. Mais bon, il a été décidé de garder parce que, ben parce que voilà, c'est l'histoire de l'œuvre et ça raconte des choses. Et puis, il est possible aussi que la tête dessous, qui est encore conservée et qui vous regarde, hein, soit assez usée. Parce que non seulement elle était sans doute traversée quand la toile a été percée, hein, mais peut-être à cette occasion-là, vous voyez, la tête a été très, très abîmée, quoi. Alors repeindre quelque chose pour remplacer ce qui a été repeint après, qui parle soit du tableau, le Louvre a préféré garder les choses en état.
Ça vaudrait le coup d'avoir une reproduction avec la même tête.
Absolument. Alors maintenant, ce genre de choses... Alors, en l'occurrence, ça n'a pas été fait pour ça, mais ce genre de choses est un peu envisageable, maintenant. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, au niveau photo, hein, une reproduction avec la tête en question. J'ai cherché pour voir s'il y avait au moins une radio qui montrait la tête, et je ne l'ai pas trouvé.
La toile par derrière, s'il y a eu un trou, on le voit.
Alors, oui, mais quelquefois, ça a été rentoilé.
Ah.
Et si c'est rentoilé, ça ne se voit pas. Sauf à la radio.
Oui. C'est vrai.
Parce que les rentoilages, c'est ça le problème, c'est que les rentoilages, c'est bien parce que ça redonne un support, je dirais, solide à l'œuvre. Hein. Mais ça a deux problèmes, un peu comme pour le bois que je vous ai dit tout à l'heure, les toiles, elles vivent aussi, c'est des matériaux organiques. Donc si vous rentoilez, vous allez bloquer la toile originale comme vous bloquez le bois, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que la toile, c'est plus souple que le bois. Hein. Donc c'est pour ça que quelquefois on rentoile quand même, parce que c'est moins dangereux que si vous remettez du bois derrière le bois. Hein. Mais le problème quand vous rentoilez aussi, c'est que vous ne voyez plus le dos original de la toile. Voilà. Et or, quelquefois, il y a aussi des artistes qui ont écrit des choses derrière. Des artistes qui ont écrit leur signature derrière, ou qui ont mis une date, qui ont mis « ça représente Monsieur Bidule ». Si vous remettez un rentoilage par-dessus, vous cachez tout ça. Vous voyez ? Donc les rentoilages, on en fait de moins en moins à cause de ça. C'est comme les châssis que l'on vire, c'est de moins en moins pour toutes ces raisons-là. Ok ? Voilà, donc Louis-Antoine de Nain, la forge. Alors, chose amusante, vous parliez de Vulcain. Le nain, l'un des le nain, a fait une autre version de ça, mais avec vraiment Vulcain. Et même Vénus qui arrive dans la forge de Vulcain. C'est en gros la même chose, mais il y a Vénus en plus nue qui arrive, et là c'est vraiment Vénus dans la forge de Vulcain. Bah oui. Vous connaissez?
Oui, à Avignon. Quoi, à Villeneuve-les-Avignons.
Villeneuve-les-Avignons. C'est une œuvre qui représente quoi? Le couronnement de la Vierge. Hein. On voit au centre la Vierge, qui est couronnée par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le couronnement de la Vierge. Hein. À droite et à gauche, vous voyez quoi?
Du monde.
Et ce monde, c'est quoi?
Le paradis.
C'est les saints, tous les saints du paradis. Hein. Il y en a. Hein. Il y a même d'ailleurs des enfants qui n'ont pas encore été baptisés, qui sont là tout nus, à droite et à gauche. Des innocents, n'est-ce pas, les saints innocents, qui sont là. Il y a même eux. Il y a vraiment tout le paradis qui est là. Hein. Ça se bouscule. Hein. Bon. Et en bas, il y a quoi? Alors, il y a effectivement des représentations, notamment sans doute, de Jérusalem. Et puis quoi d'autre, là? Vous devinez?
Les enfers.
Ah, les enfers, absolument. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que les enfers?
Le purgatoire à gauche.
Ça. Il y a à droite, ce serait quoi?
L'enfer.
Pourquoi vous voyez que c'est l'enfer? C'est rouge, hein, c'est les flammes. Hein, voilà, hein. On est sous terre, c'est les flammes. À gauche, un peu moins rouge, c'est le purgatoire. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous montre que c'est le purgatoire?
On retire quelqu'un.
Voilà.
Il y en a qui s'en sauvent.
Voilà, exactement. Il y a un ange qui est en train de tirer quelqu'un, un type avec une tiare. C'est sans doute encore un pape, tiens. Et il le tire pour l'emmener du bon côté. Hein. Vous avez le paradis en haut, l'enfer en bas, et le purgatoire ici, et on tire des gens du purgatoire pour qu'ils aillent au paradis. Bien. Et au centre, vous avez...
Le Christ
en croix. Et là, ce petit monsieur blanc... C'est pas un pape. C'est pas un soupape. Ni une soupape, d'ailleurs. Enfin, c'est un soupape, si on veut, parce qu'elle est en dessous du frère.
C'est pas un ange.
C'est pas un ange.
C'est un saint.
On est à Avignon, mais même à Villeneuve, les Avignons, on a dit tout à l'heure. Hein.
Ah, il y a une chartreuse.
Voilà, il y a une chartreuse. Et vous savez que les chartreuses sont habillées en blanc. Et les chartreuses sont en blanc. Je vous rappelle qu'en Bourgogne, il y a une chartreuse célèbre. Un château de Chambolle, à côté de Dijon, ont été enterrés les ducs de Bourgogne. Hein. Demain, vous allez au musée de Nantes, mais après-demain, vous retournez au musée de Dijon pour voir les chartreux du tombeau de Philippe Lardy, hein, qui sont tout blancs. Bien. Eh bien, voilà, c'est un chartreux. Les chartreux, ils sont habillés en blanc. Vous avez un chartreux, puisque ce retable vient d'une chartreuse. D'accord ? Vous savez qui est l'auteur de cette œuvre ? Non ? Pardon ? Non.
Non.
Non, c'est un artiste qui s'appelle Enguerre en carton. Avec un Q, pas un C, hein, Enguerre en carton, qui est l'auteur d'un chef-d'œuvre hein, de la peinture française du XVe siècle, c'est la fameuse Pietà d'Avignon. On connaissait la Pietà d'Avignon, hein, hein, une Pietà. J'aurais peut-être dû mettre le. Enfin, ce n'était pas le. Bien. Si je vous montre tout ça, ce n'est pas pour ça. Je vais vous montrer un détail de cette partie-là du tableau. Et voilà. Voilà un détail de cette partie en bas du tableau. Ça représente quoi ?
Un diable.
Un diable.
Qui a été griffé.
Qui a été griffé. Et qu'est-ce qu'il fait, ce diable ?
Il tire
les pieds de... De quelqu'un, d'un damné. Et pourquoi il tire les pieds ?
Pour le faire descendre en enfer.
Voilà, pour le retenir en enfer. Hein, vous rappelez, hein, on est en bas à droite dans les enfers. Donc il y a bien le diable, dont celui-là. Et il est en train de retenir un type qui est en train de vouloir quitter l'enfer. Il le retient, parce qu'il ne tient pas du tout à perdre son boulot. Hein. Il faut que les gens des enfers restent en enfer. Bien. Vous avez dit que ce diable a été griffé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est griffé ?
Un foudingue qui a...
Oui. Un foudingue
qui l'a lacéré.
Un foudingue qui a lacéré. Un foudingue qui a lacéré ?
Non. Hein bon.
Des insectes qui ont lacéré ?
Non.
Ah, les insectes lacéreurs. Sacré race. Qui a deux pieds, deux jambes, deux bras, une tête.
Oui, bon, c'est...
Alors, entre les doudingues et les insectes, est-ce qu'il y aurait une solution médiane ? Pardon ?
Un animal ?
Un animal ?
Non.
Un humain plutôt ?
Oui, c'est plutôt humain ça.
Ouais. Mais pourquoi ? Pour bousiller. Ah !
Comme pour enlever l'image du diable.
Parce que c'était le diable.
Cette
œuvre, c'est quoi ? Ce grand tableau qui représente le couronnement de la Vierge se trouvait dans la chartreuse. Mais où ? À quel endroit ? C'est quoi comme œuvre ?
C'est un
retable. Hein ? Comment est-ce qu'on appelle ces retables qui n'ont pas de volet ?
Palin.
Ah, ouais, c'est une palin. Bien. Donc c'est un retable, c'est une palin. Hein ? C'est bien. Et donc ces retables, ça va se trouver sur un autel à la chartreuse de Villeneuve des Avignons. Le retable y est d'ailleurs toujours, hein, juste à côté de la chartreuse. Et autrement dit, c'était dans une église. Enfin, voilà. Hein. Voilà, donc c'est la partie basse. Alors qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? C'est le diable, il a été lacéré. Pourquoi ? Pardon ? Ben, en même temps, il n'a pas disparu. Parce que moi, je veux faire disparaître un diable, je prends un marteau, je pète tout, puis il n'y a plus de diable. Hein, c'est réglé. Hein. Là, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a griffé, effectivement. Pourquoi ?
Qu'est-ce que c'est, les deux jambes à gauche ?
Eh bien, c'est les jambes du gars qu'il est en train de retenir en enfer.
D'accord.
Hein ? Il y a quelqu'un qui veut partir de l'enfer, et le diable le retient. Eh bien, les diables, c'est pas gentil. Quand vous êtes un pèlerin qui va faire ses dévotions à la chartreuse des Avignons, et que vous priez devant la Vierge, etc., ben, le diable, vous êtes contre lui. Alors, vous le lacérez.
Ben oui, c'était le
foudingue. Ah non, pas du tout un foudingue. Ah non, pas un foudingue. Non, non. Au contraire, un bon pèlerin. Un bon pèlerin. Vous voyez un, ah non, parce que vous êtes au XVe siècle. Cette peinture, ce n'est pas du patrimoine pour vous. C'est une œuvre pieuse. Le diable, vous êtes contre. Il faut l'éliminer. Mais pas l'éliminer complètement. Si vous l'éliminez complètement, on ne le voit plus. Non, il faut le lacérer. Vous êtes un bon pèlerin, un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Pas un foudingue, hein, à moins que les bons chrétiens soient des foudingues. Mais là, je vous laisse la responsabilité de vous. Hein, voilà. Vous êtes un bon chrétien. Hein, Vous voyez la Vierge, le couronnement de la Vierge, vous voyez des diables, et bien les diables, c'est pas bien. Donc vous allez lacérer le diable. Hein, voilà. Autrement dit, ce que vous avez là, c'est pas du tout l'œuvre d'un foudingue. C'est l'œuvre de bons chrétiens qui allaient en pèlerinage, recueillir à Chartreuse devant le retable, et qui, pour montrer, n'est-ce pas, leur aversion au diable, chlac, le lacérait. Parce que lui, il est lacéré, mais tous les autres diables du bas le sont aussi.
Ah oui,
tous.
Ah oui.
Tous.
Ah oui. D'accord.
Ben oui. Vous ne pouvez pas accepter le diable. Si vous êtes un bon chrétien, le diable, c'est pas bien. Si vous êtes un foudingue, c'est plutôt la Vierge que vous allez tabasser. Hein. Pas le diable. Hein. Au contraire, le diable, si vous êtes un foudingue, vous allez le garder. Hein. Alors que les diables, si vous êtes un bon chrétien, là, vous allez barquer votre... Il faut que ça se voit. Si vous l'éliminez complètement, ça ne se verra pas. Si vous lacérez, hein, là, ça se voit. Et là... Plusieurs l'ont fait, visiblement. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de la restauration ?
On laisse.
Eh bien, vous laissez. Parce que, justement, vous dites des choses que la preuve, on ne connaît pas forcément. Personne ne le sait, ça. Personne ne le voit sur le retable. Tout le monde voit ce retable, chef-d'œuvre. Après-demain, vous allez à Vigneux-Vallier, on pourrait le voir. Hein. Ah ben, si vous ne connaissez pas, c'est une œuvre extraordinaire. Après-demain. Ah oui, parce qu'après-demain, vous êtes à Dijon. Hein. Et c'est le jour d'après. Hein, quand vous allez au musée, il faut voir ça. C'est un des grands tableaux, en plus c'est très grand, hein, un des chefs-d'œuvre de la peinture en France au Moyen-Âge. Hein. C'est extraordinaire ce tableau. Hein. Eh bien, personne ne voit ça, mais vous verrez, n'est-ce pas, sur la prédelle, sur la partie inférieure, vous verrez tous ces diables qui ont été lacérés parce que les pèlerins, et vous verrez des choses équivalentes ailleurs, hein, et dès l'Antiquité on a ce genre de choses. Hein. Les pèlerins étaient là qui bousillaient le diable pour marquer leur aversion. Donc c'est très important à garder, hein, parce que ça montre l'histoire de...
D'accord. Faut que ça s'arrête quand même.
Pardon ?
Faut que ça s'arrête.
Ah, ben bien sûr, faut que ça s'arrête. Oh, maintenant c'est dans un musée, donc oui.
Le peintre lui-même n'était pas mis en cause.
Ah non, c'est le diable. C'est le... Enfin, le diable n'est pas bon, alors on le lacère. Voilà.
Je suis surpris par le peu de lacération. Il n'y a pas grand-chose.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plein de diables. Hein. Ah. Et voilà, donc, et puis je pense que à partir du moment où vous êtes un pèlerin et que vous voyez qu'un diable est déjà lacéré, bah, c'est déjà fait quoi. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une couche. Hein. Voilà. Et puis il y a peut-être un autre diable à un endroit, et voilà. Et encore une fois, l'idée n'est pas de le faire disparaître. Hein. Si vous le faites disparaître, il n'existe plus, donc le mal n'est plus là, or il est toujours là. Hein. On le voit pas mal en ce moment d'ailleurs. Hein. Donc si vous voulez, il ne faut pas l'éliminer, il faut le martyriser, que ça se voit, que ça fasse exemple. Donc, il ne faut pas l'enlever. De toute façon, l'enlever, c'est facile de l'enlever. Prenez ce dictionnaire, vous bougnez ça dans le tableau, puis c'est réglé. Hein. Donc, ce n'est pas compliqué d'éliminer quelque chose. Il ne faut pas l'éliminer. Il faut le lacérer pour qu'on voit qu'il a été lacéré. Mais pas trop non plus. Parce que si vous l'éliminez, c'est... la pédagogie n'est plus là. Ouais.
Le peintre savait qu'il allait lui arriver ça.
C'est ça. Pardon ? Oh, c'est très fréquent au Moyen-Âge, ce genre de choses. Hein. Très, très fréquent. Très fréquent.
Donc, il savait que ça pouvait aller...
Oh non, c'est à partir du XVe siècle, jusqu'à des périodes plus tardives. Non. Non, là par contre, c'est très difficile de dire. Donc c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les traces d'usage, et c'est important de les conserver parce que ça en dit beaucoup sur l'œuvre. Vous savez, il y a d'autres choses au niveau des sculptures. Dans une chapelle pas très loin d'ici, un Saint-Barthaud, vous connaissez peut-être Saint-Barthaud,
ah oui,
hein, où il y a un gisant.
Hein. Oui.
Juste de dire, à l'église de Saint-Barthaud, il y a une source. Hein, il est dit que la source, ça guérit les maladies des yeux. J'y suis allé étant petit, je suis allé à la source boire l'eau de la source. Le résultat, je l'attends encore.
Mais enfin, ça va peut-être venir. Si
oui, donc ça va peut-être venir. Mais à Saint-Barthaud, ses yeux sont complètement creusés parce que depuis très longtemps, les gens viennent à Saint-Barthaud creuser les yeux parce qu'il faut mettre des petits morceaux de la poudre des yeux de Saint-Barthaud dans un petit gobelet qui est toujours près de la source d'ailleurs. Et vous mettez un peu de poussière des yeux, un peu d'eau, vous buvez et c'est souverain. Voilà. Et donc la sculpture est très abîmée parce que depuis des siècles, on vient creuser Saint-Barthaud pour ça.
C'est où, c'est où?
C'est à côté de Sainte-Hélène en montagne. Donc, sur la route du Creusot, si vous voulez. Ça existe toujours, non, c'est à côté.
Comment ça s'écrit ?
Saint-Barthaud, B-A-R-T-A-U-D. Oui, c'est pas très loin de... Hein, voilà. Voilà. Alors.
Oula.
Oula.
Bon, on a dit...
Vous avez raison. Alors, en haut à gauche, vous voyez quoi ?
Un
papier japonais. Et le reste, c'est quoi ? Parce que, effectivement, ça, je vous aurais montré ça tout à l'heure. Vous auriez, comme tout à l'heure, réagi en disant « Mon Dieu, quelle horreur hein !» Or là, je suis content de votre réaction, parce que ça montre, on a évolué depuis tout à l'heure, hein. En fait, on se dit, c'est épouvantable. Mais vous savez que ça, ça peut être très très bien, vous allez le voir d'ailleurs, ça peut être très bien de se rattraper. Qu'est-ce que c'est que ce problème-là, finalement? Oui. Et c'est quoi le problème du vernis qu'on a eu tout à l'heure? Ça s'appelle comment?
Chancy.
Voilà, c'est un chancy. C-H-A-N-C-I-S. Un chancy. Pas un châssis, hein.
Oui, oui.
C'est le vernis qui se chancy. Donc, en fait, là, vous avez tout. Bon, il y a eu un accro en haut à gauche, hein, mais vous avez tout, sauf que le vernis a chancy. Voilà. En plus, il a jauni. En plus, tout ça est encrassé. C'est pas propre du tout. Voilà. Mais si vous enlevez le vernis, hein, on appelle ça régénérer le vernis. Alors, entre nous, il faut y aller quand même tranquillement. Il, hein, ne faut pas y aller qu'un minute, deux heures. Hein, faut... Parce que si vous enlevez... Parce que le vernis, il est sur la peinture. Si vous y allez vite, vous allez enlever le vernis, mais bientôt, vous allez enlever la peinture aussi.
Alors là
aussi, c'est un... les restaurateurs, ils vont avec des solvants, mais il faut des solvants très doux, qui vont enlever la partie supérieure du vernis et pas la partie inférieure. En gros, on garde le vernis, la partie du vernis qui est juste sur la couche picturale.
Et on dit alléger.
On dit alléger. Un allègement du vernis. Et donc, faut surtout pas atteindre la couche picturale. Donc ça, c'est... les restaurateurs font ça avec des loupes, des instruments qui grossissent. Et puis, ils sont très, très, très habitués, quoi. Et ils voient bien le moment où il faut s'arrêter. Quitte à garder un peu de la patine, du vernis ancien. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On n'est pas obligé d'aller... aux États-Unis, généralement, on racle jusqu'à la peinture elle-même. Hein, ce qui donne du tableau. En France, on est beaucoup plus doux. On garde les dernières couches de vernis qui, donc, gardent au tableau un peu de la patine qu'il avait. Voilà, vous allez voir, hein, une fois qu'on a travaillé sur un tableau comme ça et qu'on a allégé, là, je vous montre deux exemples du chancy. Voilà, ça, c'est une vue microscopique de ça. Donc, vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire que le vernis est complètement craquelé par l'humidité, ça opacifie tout. Et quelquefois, en plus, il y a des vernis, c'est ce que vous voyez là. Là, parce que c'est sur le bleu, vous voyez. Il y a un vernis qui craquelle et qui se tire comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous voulez, les vernis réagissent différemment selon les supports sur lesquels ils sont. Là, il a un chancy, tout autour, par exemple, et là, il n'a pas trop chancy, un peu quand même, hein, mais il a surtout craquelé. Alors, si vous éliminez tout ça, ça va vous donner ça. Et ça, c'est le genre de choses que vous obtenez quand vous êtes restaurateur, assez rapidement. La restauration n'a pas duré 3 siècles. Enfin, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on a vu tout à l'heure.
C'est incroyable que dessous, ça reste...
Ben oui, mais dessous. Parfait. C'est les tableaux, on l'a vite du genre. Hein. Vu ce qu'on leur fait, je trouve qu'ils ont bon dos. Hein. Mais en fait, c'est protégé par le vernis. Donc, c'est un peu redondant. Il y a une chose un peu nouvelle, là, quand même, dont on n'a pas trop parlé. Bon, vous reconnaissez les papiers Japon, hein, voilà.
Une sorte de pissotement de la toile.
Oui.
Oui.
Ce qu'on appelle un vieillissement en pavillon, des zones pavillonneuses.
Voilà. On voit le châssis, là, aussi.
On voit le châssis. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas trop parlé encore. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Déchiré.
Hein. Quelque chose qui a dû tomber dedans. Voilà. Donc, déchiré. Alors, comment est-ce qu'on fait pour soigner ce genre de choses?
Une toile derrière.
Alors, ça, c'est une possibilité, effectivement. On met une toile derrière.
Mais hein, voilà. Partielle.
Partielle. Alors, s'il y a beaucoup de déchirures, on peut faire un rentoilage, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. S'il y a 50 déchirures, c'est peut-être nécessaire. Bien. Autrement, vous mettez, en effet, une toile partielle. Il y a également, éventuellement, d'autres solutions encore. On parlait de couture tout à l'heure. Alors... On raccommode, c'est-à-dire qu'on reconstitue les fils
de la toile.
Une sorte de retissage.
C'est ça.
Voilà. Pas vraiment.
À froid, si j'ose dire. Je vous ai mis quelques... Voilà. Parce que voilà une déchirure en haut à gauche. Alors, on peut faire ça. Alors, ce que vous avez là, c'est justement... Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ce dont je vous parle autrement, c'est ça. Vous voyez que là, c'est ce qu'on appelle du fil à fil. C'est-à-dire que chaque fil cassé est en partie détruit et reprolongé par un nouveau fil. C'est-à-dire on recrée la toile et on lui redonne la dynamique dans les deux sens qu'elle avait à l'origine. Quelquefois, alors c'est du fil à fil, c'est fil à fil. Alors quelquefois on le fait, mais partiellement, vous voyez, avec ce genre de choses. Ou alors on crée, on colle carrément des petites pièces. Il y a plusieurs manières de faire.
C'est une minutie.
Ah oui, c'est une grande minutie. Mais l'intérêt, vous voyez, plutôt que de toujours forcément pas coller une grosse pièce derrière, parce que si vous collez une pièce derrière, surtout si c'est mal fait, ça va, comment vous dire, ça va tirer sur une partie de la toile où vous avez mis la pièce et pas le reste. Donc ça va, à l'avant, souvent ça va se voir. Quelquefois, vous le voyez sur les pièces anciennes qui ont été faites. Alors si vous faites du fil à fil, vous retrouvez tout l'équilibre d'origine. Parce que vous reconstituez chaque fil.
Et de même nature.
Pardon ?
Et de même nature.
Ouais.
Du lin sur du lin.
Oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle un restaurateur support. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est... Il y a des restaurateurs qui sont vraiment spécialisés dans le support. La toile, le châssis, etc. Le rentoilage, le doublage. Il y a vraiment des restaurateurs qui ne font que ça. Alors, il y a beaucoup de restaurateurs qui sont capables, pour, j'allais dire, des opérations, entre guillemets, simples... de faire et le support et la couche picturale. Hein. Mais par exemple, si vous avez des très très grands tableaux avec des tas de pathologies très différentes, déformations, déchirures, etc., généralement, vous avez des spécialistes du support. Vraiment, dans le métier, c'est la toile ou le bois, c'est une peinture sur bois. Voilà, en tout cas là, pour ce tableau. Hein. Alors là, je vous montre aussi comment ça se passe de l'autre côté, sur un autre tableau d'ailleurs que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Mais là, il y a une déchirure, on a travaillé la déchirure à l'arrière, avec une des solutions que je viens de vous montrer. Hein. Seulement, évidemment, il y a quand même de la peinture qui est partie. Vous comprenez ? Donc on remet un après, en blanc, et puis après on va retoucher. D'accord ? C'est bon ? Ah, non, c'est un... Voilà, en tout cas, pour la peinture en question, voilà l'œuvre en cours de traitement. Là, la déchirure a été traitée, hein, mais c'est avant la retouche. Et après la retouche, ben, ça donne ça.
On peut revoir, là, le truc d'avant.
Oui,
oui.
Alors, il y a une belle déchirure verticale. Hein. En plus, l'objet qui a déchiré a bien raclé la peinture, hein, qui a disparu. Hein.
D'accord.
Alors, ça a été... Ah oui, c'est du... Voilà. Et ça, c'est quoi ça? C'est...
Une radio.
Un négatif, c'est une radio. C'est une radio. Qu'est-ce que vous voyez?
Des personnages.
Deux trucs superposés.
Deux trucs superposés. Alors, est-ce que vous pouvez me les décrire?
Ah oui.
Il y a un personnage avec
un personnage avec un chapeau à quel endroit?
En haut à droite.
En haut à droite, on voit un personnage avec un chapeau, là-haut, oui.
Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde. Un animal derrière.
Je sais pas, c'est quoi
un... Non, mais il y a un certain nombre de personnages dans l'autre sens.
Dans l'autre sens. Il y a un visage.
Ah, mais ça serait
à quel endroit?
Au milieu.
Là, oui.
Là, on voit un visage. Là, on voit un visage avec un chapeau.
Il y en a un en bas.
Il y en a un dessous ici.
On dirait qu'on l'a pris dans un sens et dans l'autre sens.
Ah voilà, donc on aurait en fait deux choses dans deux sens différents.
Oui.
C'est-à-dire que ces figures-là, pour les bien voir, il faudra mettre le tableau comment?
À
l'horizontale, c'est ça.
Et puis l'autre à la verticale, l'homme jeune, là, un homme, on voit.
Qu'est-ce qu'on voit, cet homme jeune?
Un homme très... Là, en gros.
Ça?
Oui, voilà. Et puis la tête, c'est pas un homme jeune qu'on voit, là?
Là?
Non, la tête plus...
Ça?
Ah non,
à côté.
Ça?
Non.
Ça?
Oui.
Ça, ce serait sa tête.
Non, non, plus haut la tête.
C'est une main.
Ah, ça?
Non.
Non.
Ah, mais si,
ça.
Si, il y en a une.
Voilà.
Il y en a une.
Vous venez de montrer, là?
Oui, il y a un visage.
Là, il y en a une aussi. Hein.
Là, il y a une tête aussi. Oui.
Il y a une tête aussi.
Vue par-dessus.
On voit une main. Enfin, on voit pas mal des mains.
Il y a beaucoup de mains.
Il y a de la main. Hein.
Mais qu'est-ce que c'est, ce... cet objet? Là. Oui, ça, c'est quoi?
Alors, on restaure lequel?
Une tête? Une tête de cheval? Ah, une tête de cheval! Ah, ouais, avec ouais. Les yeux, le carapaçon et le...
Ouh, les naseaux? Les naseaux?
C'est ça? Non, comment est-ce qu'on les prend? Le nez du cheval.
Naseaux?
Mais c'est pas plusieurs superpositions de
tableaux. Alors, il y a visiblement plusieurs superpositions. Hein.
Au moins deux.
Au moins deux. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait cette tête-là, cette tête-là. Moi, j'en vois une autre là, avec une oreille. Cette tête-là, qui est, que l'on verrait mieux si le tableau était à l'horizontale. Hein. Et puis, il y a une autre tête là, alors qu'elle n'est pas dans le même sens. Hein.
Non.
Il y a effectivement là un corps. Hein. Ça, ce serait quoi alors?
Les bras.
Le bras. Hein. Donc, on aura un corps comme ça.
Enfin, oui. Un buste.
Un buste. Bien. Hein. D'accord. Alors, on a donc au moins deux choses. Pardon.
C'est une descente de croix.
Ah, une descente de croix. C'est qu'on aurait là le buste, parce que c'est nu, ça. Hein.
Oui.
On aurait un buste et là quelqu'un. Donc une descente de croix, c'est une possibilité. Est-ce que c'est la seule? Un personnage nu, là. Avec quelqu'un qui a l'air de faire quoi, d'ailleurs?
Justement, elle a l'air éplorée.
Éplorée. Elle a les... Visiblement, cette personne a les bras en hauteur.
On dirait un visage de femme.
Oui, on dirait un visage de femme. Et voilà ces deux bras, là. Elle a les bras qui viennent là, et on a ce personnage à moitié nu devant.
Et on peut le voir ou basculer?
Ouais. Bien prêt.
Trop tôt.
Alors, ça ne vous dit rien, ça? Un personnage nu et une femme par-dessus qui a les bras levés.
Madeleine.
Bah, Madeleine est toute seule en général. Et puis Madeleine, elle n'est pas trop avec un personnage. Une Pietà serait envisageable. Sauf c'est plutôt à l'horizontale. La Vierge est comme ça, il y a la pièce dessus. Mais moi, je pense à autre chose. Un personnage nu comme ça, avec le bras en hauteur. Et une personne qui est par-dessus.
Pas une descente de croix?
Non. Ce serait une possibilité. Mais la croix, elle serait un peu trop haute. Je ne vois pas ce que viendrait faire cette femme là, avec les draps, bras en hauteur. Non. Mise au tombeau, ça pourrait être ça, c'est une option éventuelle. On a parlé d'un saint tout à l'heure, hein?
De beaucoup.
Dont la vie, enfin, si je peux dire, correspondrait bien à cette scène.
Saint-Sébastien, peut-être?
Et ben voilà.
Saint-Sébastien. Les bras attachés.
Saint-Sébastien, on l'a attaché à un arbre, on l'a s'agité, il était plein de flèches. Et quelqu'un est venu qui s'appelle Irène. Irène est venue voir Sébastien et avec sa servante a enlevé les flèches et Sébastien a été guéri. Ce que vous avez là, c'est Saint Sébastien et une des femmes, c'est plutôt d'ailleurs la servante, qui est en train de détacher Saint Sébastien. Vous voyez, elle a les bras, vous savez, détache le pauvre Saint Sébastien qui est un peu mal parce qu'elle a quand même des flèches dans le corps, si vous voulez, c'est un peu difficile. Donc il voit. D'accord ? Alors, si on retourne ça. Alors voilà, voilà. Hein. Vous reconnaissez le buste de Saint Sébastien, la femme avec le bras. Je vous remets la radio.
Oui.
Vous avez bien en tête?
Oui.
Oui, mais l'autre femme, où est-ce qu'elle est?
Oui, mais les autres.
Attendez, attendez, chaque chose en son temps. Nous sommes méthodiques.
Hein?
Donc là, on voit, vous voyez le Saint-Sébastien, vous le voyez?
Oui.
Vous voyez la femme en haut à gauche?
Oui.
Vous avez bien ça? Vous les photographiez?
Oui, l'autre.
Vous la reconnaissez bien, la femme en haut à gauche. Et le torse Saint-Sébastien aussi. Oui, ce qu'on voit moins, c'est la personne à droite.
Oui.
Il faut dire qu'il y a du monde à droite. Hein?
Oui, c'est ça.
Difficile. Hein? Bon. Voilà, côte à côte. On voit bien. On voit quand même un peu, hein, semble-t-il, là, notamment là, quelque chose qui pourrait correspondre à ça.
Pas évident.
Le Saint-Sébastien, oui, la femme en à gauche, oui, le reste, c'est plus. Alors, maintenant, donc voilà, à nouveau, hein. Voilà à l'horizontale.
Ah, c'était une armure.
Et voilà, ce que vous avez pris pour un cheval, c'est en fait une armure. Et au-dessus de l'armure, il y a quoi?
Un casque.
Un casque.
C'est pas une femme, c'est un homme.
C'est pas une femme, c'est un homme.
C'est le jardin des oliviers.
Et voilà. C'est quoi au jardin des oliviers?
C'est C'est l'arrestation du
Christ. C'est l'arrestation du Christ au jardin des Oliviers. Vous avez le Christ ici. Et à côté, il y a qui ? Il y a Judas. Judas qui l'embrasse. Hein ? Il l'embrasse et c'est comme ça que les soldats savent qui ils doivent prendre. Hein ? Et vous reconnaissez ici un personnage avec son chapeau et un autre qui a quoi ?
Un flambeau.
Un flambeau, c'est la nuit, hein, la Jean des Oliviers. Hein. Il a donc un flambeau. Donc voyez, alors ça, c'est où par rapport au Saint-Sébastien ?
En dessous.
C'est-à-dire que sous le Saint-Sébastien que je viens de vous montrer, il y a ça. D'accord ? Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Bah, celui du dessus.
Pas forcément. Pas forcément.
Oui, on l'a vu. Donc le choix qui a été fait, vous savez lequel c'est. Hein. Ça a été de garder la peinture du dessus. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans ces cas-là, on ne va pas décaper... Enfin, à moins qu'il s'agisse, vous voyez, d'une espèce de croûte épouvantable qui, comment dire, cache complètement. Hein. Une peinture sublime. Dans ces cas-là, on va peut-être prendre la décision d'enlever la croûte épouvantable. Mais là, c'est sans doute le même artiste qui, sur la même toile, a fait deux tableaux superposés. Pourquoi ?
Parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une autre toile.
Ah voilà, pardon. C'est ça, par économie. Il n'a sans doute pas les moyens de... Puis peut-être que cette... Il y a peut-être une autre raison, d'ailleurs, économie, sans doute.
Peut-être... Mais ça ne lui plaisait plus.
Alors voilà, peut-être une commande qui fait qu'il a... Pas d'autre solution. Puis peut-être que cette peinture aussi... Peut-être que ça ne lui a pas plu à lui. Peut-être pas un commanditaire. Il n'a peut-être pas pu. Alors, il l'avait peut-être pas fini non plus. Parce que là, on voit, mais on ne voit pas tout non plus. Hein. Qui dit que c'était vraiment complètement terminé, achevé, ce n'est pas certain non plus. Hein. Donc, pour toutes ces raisons, un problème de goût, un problème de temps, un problème d'argent, un problème de, d'intérêt ou pas pour cette œuvre, il a décidé de la recouvrir. Donc, dans ces cas-là, enlever l'œuvre définitive pour mettre à jour l'œuvre antérieure, c'est coton. Parce que là, c'est quand même très difficile. Puis, c'est vraiment très compliqué. Hein.
C'est même imprudent. Parce que...
Et c'est tout à fait imprudent. Parce que là, vraiment, les deux sont très imbriqués, hein. l'une sur l'autre.
C'est très riche comme détail ici.
Oui, c'est assez riche. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette œuvre que vous avez là, l'arrestation du Christ au jardin des Oliviers, elle fait beaucoup penser à ça. Vous connaissez ça ? Ça, c'est une œuvre de Caravage qui représente ça. Et quand on met face à face, ou l'un au-dessus de l'autre, la radio, hein, et l'œuvre de Caravage, vous voyez que c'est très proche. Alors, pareil, mais c'est très proche. Hein, vous avez à chaque fois le Christ qui regarde. Hein.
Oui.
Alors là, il y a un personnage, peut-être Saint-Jean d'ailleurs, hein, qui s'en va en criant. Là, c'est un soldat, mais c'est... Voilà. Vous avez là ce personnage en armure, on retrouve le même là. Là, il y a un autre personnage. Hein. Alors, il n'y a pas de torche. Il y en a un par contre derrière qui tient une lanterne. Hein. Donc, vous voyez, on a... Et puis vous avez Judas, bien sûr, ici comme là. Hein. Donc c'est pas pareil, mais c'est très proche. Mais oui.
Est-ce qu'on peut dater, admettons qu'un peintre, genre le Caravage, ait fait un tableau dessous et qui est derrière un peintre 100 ans, 200 ans après, qui ait fait quelque chose de bien, mais moins... Est-ce qu'on peut dater et à ce moment-là, est-ce que ça aide au choix ?
Oui, on peut dater, alors que de manière relative, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire la peinture du dessous est du 17e, la peinture du dessus est du 19e, ça on peut le faire, parce que les pigments ne sont pas forcément les mêmes, les matériaux sont différents, puis le style, évidemment, malgré tout, ça se voit aussi quand même, hein. Donc on peut dater au moins relativement, ça peut aider effectivement au choix, dans certains cas, effectivement. Là, en l'occurrence, l'artiste, je ne sais pas si j'ai remis une autre photo, non. L'artiste qui a fait le Saint-Sébastien, hein, vous voyez à gauche, est sans doute le même qui a fait l'œuvre précédente. C'est un artiste, alors, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur l'attribution, mais c'est sûrement un artiste qui a travaillé en Italie au XVIIe siècle, plus ou moins proche ou dans l'orbite de Caravage. C'est pour ça qu'on aurait une œuvre caravagesque. De toute façon, ça, déjà, c'est caravagesque. Hein. Ce Saint-Sébastien en clair obscur, c'est très, très, très caravagesque. Hein. Comme Jean de la Tour a pu en France l'être aussi, si vous voulez. Hein. Voilà. Et en tout cas, c'est un artiste. Et la scène de l'arrestation du Christ en montre bien, très proche de Caravage. D'où, évidemment, le fait que... voilà, l'idée a été non pas du tout de décaper le Saint-Sébastien, mais bien de garder l'une tranquillement sous l'autre. Soit on n'a pas de technique pour enlever l'un de l'autre. Ça, c'est pas du tout possible. OK ?
Pourquoi je vous passe ça? Ouais. Voilà. Effectivement, vous avez là un tableau. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pardon? Découpé?
Plié?
Plié? Plié? Donc un tableau qui a été plié. D'où ça?
Dans une toile.
Une toile. On a plié et bien déplié.
On l'a mis dans un coin et puis il y a quelque chose qui s'est.
Ou quelque chose qui s'est mis dessus,
oui.
Créant une espèce de marque. Hein. Donc c'est un tableau qu'on a plié.
Ou alors on a rajouté.
Ah, ou alors on a agrandi.
Et on a gardé la deuxième version.
Voilà. Ça, en fait, c'est un tableau qui, à l'origine, était comment ?
Carré.
Carré. C'était un tableau carré, un tableau plein de choses, très dense. Et à une époque, parce qu'on n'aimait pas... Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ?
Le Christ et la femme.
Le tableau de
Lotto.
Rappelez-vous le tableau Lorenzo Lotto. On a vu comment, à une époque sans doute au 18e, on a trouvé que cette condition très dense, avec des personnages encombrés, c'était trop dense. Alors on a fait des choses tout autour. Là, c'est pareil. À un moment, on n'a pas aimé cette condition trop dense, qui en fait avait cette allure-là. Et pour avoir quelque chose de moins dense, qui respire un peu, la photo n'est pas bonne, hélas. Et bien voilà, on a rajouté une bande sur le côté. Voilà. Et cette bande sur le côté qui est assez mal peinte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas très joli. Quoi. Elle a donc été rajoutée. Peut-être aussi parce qu'il y avait un mur, que le tableau carré était trop petit, qu'il a fallu rajouter un peu. Donc là, la partie gauche, elle est rapportée. Pour l'instant, il a été décidé de laisser telle qu'elle. Je ne sais pas si à l'avenir sera telle qu'elle. Parce que la partie rajoutée, encore une fois, je ne sais pas si vous le devinez ou pas, mais est assez moche. Hein. C'est pas très joli. Alors dans ces cas-là, ce qu'on fait quelquefois, c'est qu'on enlève, on remet la peinture dans son format d'origine, mais évidemment, on garde la joue, on lui fait un châssis spécial pour lui, on garde la joue, si vous voulez. Hein, on ne le jette pas. Quoi. Oui. Entre parenthèses, je vous montre là un cas dont j'ai eu à m'occuper, qui est assez amusant. Ça, parce que ça explique ce que je dis précédemment. Ça, c'est un tableau de Nicolas de Largillière, qui représente une nature. Bon, Nicolas de Largillière, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup de portraits à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe. Hein. Mais, enfin, plutôt au XVIIe d'ailleurs. Mais... Attendez, c'est pas... La date n'est pas bonne. Hein. C'est 1656, 1746. Hein. C'est pas un 6. Là. Il n'a pas pu mourir avant d'être né. Hein. Vous l'avez bien compris. Voilà. Donc, c'est un portraitiste et un naturmortiste, Nicolas de Largillière. Et Nicolas de Largillière a donc fait, si vous allez au musée d'Amiens, vous allez voir cette œuvre. Hein, pas de problème. Mais quand on décadre cette œuvre, alors je n'ai que des photos en noir et blanc à vous montrer, très mauvaise qualité, voilà la même œuvre décadrée. Et je ne sais pas si vous voyez, mais quand on décadre cette œuvre, on remarque que là, mais également là-haut, il y a des morceaux de toile qui ont été rajoutés en haut et en bas. Et en regardant ce qui a été peint sur ces morceaux de toile en haut et en bas, on a pu voir qu'il s'agissait de morceaux de la même toile, mais qui ont été découpés et qui, à l'origine, étaient sur les côtés. C'est-à-dire que quand on, virtuellement, hein, quand on enlève les morceaux en haut et en bas qui n'ont jamais été là, et qu'on les remet à la place d'origine, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a pu, virtuellement, hein, remettre ces éléments ici, là, et cet élément, là. Donc, alors, il en manque, hein. Mais vous voyez en bas, la reconstitution faite à partir de ce qu'on a trouvé en haut et en bas, du tableau tel qu'il était à l'origine. Autrement dit, ça a été beaucoup plus large. Il a été coupé en X ou Y. Il était trop large. On a voulu faire moins long et plus haut. Donc on a coupé. On a gardé quand même. Hein. On a recollé, si vous voulez. On a bricolé. Et on a mis ça en haut et en bas. Donc la solution qu'on a prise au musée d'Amiens, à l'époque où je me suis occupé de ce cas-là, c'est pas du tout de tout redéfaire et de remettre comme ça, parce qu'il en manque beaucoup, hein, et on n'allait pas repeindre indéfiniment, c'est donc de garder le tableau tel quel, de faire un cadre qui cache les parties rajoutées, hein, mais à côté de l'œuvre, il y a ça qui montre ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les photos ne sont pas très bonnes, je disposais de rien d'autre. Hein. Mais vous voyez, quelquefois, les œuvres montrent des tas de entre guillemets, restauration, parce que quand on a fait ça, peut-être au 19e siècle, hein, on a cru tout à fait bien faire.
C'est de quelle taille?
C'est un tableau qui fait ça. Hein.
Ah, quand même.
C'est assez, assez grand. Hein. Teintes de porte. Sans doute fait par l'argilière pour sa propre maison, d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est teintes de porte en longueur. Et décidément, on en a fait un truc beaucoup moins large et en hauteur. Hein. Vous voyez, souvent, les tableaux ont comme ça une histoire hein, qui est un ancien type de restauration, mais un petit peu spécial. Vous connaissez ce tableau de Jérôme Bosch ?
Oui.
Hein, la nef des fous. Hein. Vous voyez un petit détail sur ce tableau de Jérôme Bosch ? Lequel ? En haut à gauche, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un rectangle.
Il y a un rectangle. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ici, mais là aussi d'ailleurs.
Oui, oui.
Pardon ?
Il a plu.
Non. En bas aussi, du reste. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé là ?
On a restauré des manques ?
Alors, non.
Non.
On a fait quelque chose dont on a déjà parlé.
Alors, on a fait une petite fenêtre pour voir, pour étudier.
Voilà, on appelle ça une fenêtre, effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait une petite fenêtre pour étudier, et en faisant cette fenêtre, qu'est-ce qu'on a fait ?
On a retrouvé probablement les couleurs d'origine.
Sans doute, mais pour faire la fenêtre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un burin, un marteau,
ah,
et on a tapé.
Non, on a enlevé le vernis.
Et comment est-ce qu'on appelle ça ? On a trouvé le nom tout à l'heure. On a enlevé le vernis, c'est-à-dire qu'on a fait quoi ?
Chancy.
Alors, là, le vernis n'est pas forcément très chancy. Hein. Il serait chancy, on verrait un truc opaque. Hein. Le vernis, par contre, il est sale et jaune. Hein.
Ah, ben,
parce qu'il y a des vernis qui jaunissent mal. Donc, vous voyez, l'œuvre est complètement jaunasse. Parce que le vernis a jauni. Il n'est pas très chancy, mais il est jauni.
Allégé.
Hein. Donc on a allégé. Hein. Vous vous rappelez le mot allégement dont on a parlé tout à l'heure hein. Donc on a fait un allégement, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout enlevé le vernis complètement pour racler la peinture. On a enlevé les couches superficielles du vernis pour essayer d'aller au plus proche de la peinture et pour retrouver effectivement sous le vernis jauni le chromatisme d'origine. OK ? D'accord ? Donc on l'a fait ici. On l'a fait là, on l'a fait là. D'accord ? Et alors, quand l'opération a été menée sur l'ensemble du tableau, ça a donné ça.
Oui.
Voilà comment il était. Voilà comment il est. C'est pas tout à fait pareil. Hein ? Vous voyez à quel point, quelquefois, les vernis peuvent changer complètement la vision d'une œuvre. Et puis, il y a autre chose. Ah, voilà donc le détail. Hein. Ça, c'est quoi ?
Radio.
Radio. Qu'est-ce qui a permis de voir cette radio ?
Il y a des choses qui ont disparu.
Alors,
il y a une barre.
Oui,
il y a une espèce de
la barre
bleutée,
non ?
La barre bleutée ?
Il y a une barre verticale.
Et oblique.
Ah, ça, vous voulez dire ?
Oui.
Ouais, qui évoque... le fait que le panneau est certainement en fait de deux panneaux côte à côte. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on semble bien voir, notamment, je trouve que c'est très visible là. Un ruban. Un serpent, si vous voulez, c'est plutôt un ruban. Mais surtout, on voit quoi ? Il est fait comment, ce ruban ?
Il est dessiné.
Eh bien voilà. Ce qu'on voit, c'est le dessin. Vous voyez la peinture,
oui,
là
oui.
Est-ce que vous voyez la peinture, là
non.
Ah non. Donc, vous voyez quoi ?
Le dessin préparatoire.
Le dessin préparatoire. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la peinture. C'est le dessin préparatoire. C'est-à-dire ce que l'artiste a fait avant de peindre. D'ailleurs, on va voir des décors. Voilà. Voilà, ici, à droite, la peinture. Et à gauche, je rappelle, le dessin sous-jacent. Hein. Il y a le dessin préparatoire. Oui, rendez-vous pour ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, comme différence ?
La tête, elle est plus... pas la même. Il y a le bras aussi.
Oui, regardez. Quand vous regardez au niveau de la manche, là, ouais. Vous remarquez que ce personnage, qui est une espèce de fou, hein, a, en fait, le bras derrière la jambe. Hein, et, en fait, sur l'œuvre définitive, bah, il l'a fait de l'autre côté, puis surtout avec une espèce d'immense manche,
ouais.
Qui, là, à l'origine, n'apparaissait pas. D'accord ? Autre exemple. Là, qu'est-ce que vous voyez ?
Au-dessus.
La différence entre à gauche et à droite.
Mais il y a quelque chose au-dessus de la
tête. Voilà, qu'est-ce qu'il a au-dessus de la tête?
C'est pas énorme.
Pardon?
Non. Un petit bocal.
Oui, un verre.
Un verre.
Alors là, c'est un frappadingue. Hein. C'est pas comme à Villeneuve-Zagnon tout à l'heure. Ça, c'en est un. Hein. C'est la nef des fous. Ben, les fous, ils ont des verres sur la tête. Vous, vous n'auriez pas bien sur la tête. Vous auriez la main. Hein. Un fou, il a un verre sur la tête. Eh ben, sur. Là, on voit quoi? Rien. Alors que la radio a permis de comprendre que ce brailleur, un peu dérangé, il a un verre sur la tête. On équilibre. Il beugle. Et il a un verre sur la tête.
Mais pourquoi on passe une radio sur cette toile? On passe des radios sur toutes les toiles?
Alors, là, en l'occurrence, c'est pas une toile, d'ailleurs, c'est un panneau. C'est sur bois, hein. Mais c'est un lieu en même, si vous voulez. Ben, disons que ça permet de comprendre ce qui se passe en dessous. Ça, une radio, généralement, on en fait systématiquement, parce que ça permet vraiment de connaître l'œuvre à cœur. Savoir, on peut voir des pathologies qu'on ne verrait pas à l'œil nu, si vous voulez. Hein. On peut comprendre, justement, la question des dessins. C'est aussi la recherche, hein, les dessins sous-jacents. Vous voyez, s'il y a eu des œuvres faites avant, ça permet vraiment de mieux connaître l'histoire de l'œuvre et les pathologies qu'il y a éventuellement.
Qu'est-ce qu'on a fait du verre?
Alors, dans la restauration définitive, voilà, en fait, le verre, il apparaît complètement.
Il a été
remis.
Il y était.
Il a réapparu. Sauf que rappelez-vous, vous vous rappelez des vernis au départ? Qu'est-ce que vous voulez voir là-dessus?
Rien.
Quand vous faites la radio, vous voyez jusqu'au dessin sous-jacent. Hein, c'est pour ça que la radio elle est nécessaire. Parce que aller restaurer ça sans savoir ce qui se passe dessous, c'est quand même un peu coton. Et votre verre, là, sans plus, quoi. Hein. Vous faites de la radio, il y a le verre. Et vous dites, je risque de trouver un verre. Et vous le trouvez. Il existe sur le dessin sous-jacent, et là, vous le voyez très bien dans l'œuvre. D'accord?
Mais est-ce qu'on fait aussi des radios sur les œuvres qui ne doivent pas être restaurées?
On peut.
Oui, mais ce n'est pas systématique.
Quand on restaure une œuvre, c'est systématique.
Oui.
Ouais. Mais les œuvres, de toute façon, si on ne les restaure pas, on ne les restaure pas, donc pas. Mais par exemple, une œuvre en état, on peut faire une radio, effectivement. Quelquefois, ça peut être un élément. C'est plutôt pour, si on hésite entre tel et tel artiste. Parce que, quelquefois, le dessin sous-jacent permet de voir qu'on a une manière qui est plus celle d'un artiste que d'un autre.
Oui. Hein?
Là, il y a une chose amusante pour ce tableau, c'est que se trouve au musée de New Haven, à Yale, aux États-Unis, ce tableau de Jérôme Bosch, que l'on appelle « Allégorie des plaisirs ». Or, la restauration du tableau qui appartient au Louvre, la nef des fous, a permis de comprendre que ça, c'était en fait un morceau du précédent. Là, je vous montre ici la nef des fous du Louvre, avec la partie inférieure, qui est le tableau de Yale. L'un va avec l'autre.
Et là, les deux n'ont pas été mis ensemble.
Ben non, celui d'hier reste à hier, celui du Louvre reste au Louvre.
C'est souvent le cas.
C'est souvent le cas. Voilà. Là aussi, on a coupé les deux. Alors, chose amusante en plus, on a pu trouver que ce tableau-là, qui était sans doute un volet de retable, de triptyque, un triptyque peut-être pas trop religieux, hein, allait certainement de pair avec un autre volet que vous voyez là. Vous avez là sans doute les deux volets d'un retable dont la partie centrale n'existe plus. Par contre, on sait sans doute que les deux revers de ces deux volets étaient peints, et quand le retable était fermé, ça donnait ça. Vous avez là une peinture qui se trouve au musée de Rotterdam, au musée Boijmans van Beuningen. Cette peinture, en fait, vous ne le voyez pas là, mais quand on apprend en radio, on voit des rôles, devine un peu ici, une d'ailleurs vous le voyez là quand même, hein. On voit une césure, si vous voulez. En fait, ce tableau, les équations sont blancs, tout simplement parce que sur la photo que j'ai trouvée, je n'ai pas trouvé autre chose, mais le bois continue, sauf qu'il n'est pas peint. D'accord? Mais, si vous voulez, c'est fait de deux panneaux côte à côte. Et en fait, ça, c'est sûrement les deux revers des deux panneaux précédents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, non seulement on coupait les panneaux en morceaux, les tableaux en morceaux, ça faisait plus, mais on les coupait dans l'épaisseur, si vous voulez. Hein, évidemment, d'avoir trois tableaux de Jérôme Bosch à vendre, c'est mieux qu'un seul. D'accord. Donc voilà ce qu'il en est. Et voilà quelque chose qui vous montre ici le retable ouvert. Alors, la partie centrale, on ne l'a pas trouvé encore. Hein. Et en bas, le retable fermé, voilà ce que ça donnait. D'accord. Donc vous voyez que les restaurations permettent quelquefois de grosses découvertes. Alors, on va très vite pour les deux derniers cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Christ, voilà. Donc un Christ avec de chaque côté... Des anges, fresques,
peut-être.
Peut-être.
C'est pas sur toi, c'est effectivement une fresque. Mais pas tout à fait une fresque. Pardon ?
Une peinture sur mur, mais pas la fraîche.
Alors, voilà. Disons que c'est une peinture murale. En l'occurrence, cette peinture murale était une fresque, bel et bien. Sauf que ça, c'est pas vraiment la partie fresque, c'est la partie quoi ?
La sinopia.
C'est la sinopia. La sinopia, c'est le dessin préparatoire. C'est la même chose que pour, Bosch et un instant, mais pour une peinture. La différence, c'est qu'avec une fresque, ça se fait sur de l'enduit. Hein. Donc il y a un peu d'épaisseur. Parce que sur une peinture, sur beau ou sur toile, l'épaisseur, c'est des microns. Hein. Là, c'est de l'enduit, donc c'est un peu plus épais. Ce qui fait que parfois, quand on restaure une fresque, quand on la dépose, pour toute une série de raisons, on peut déposer la fresque et en dessous, on trouve la sinopia. Vous voyez ? Donc là, vous avez la sinopia, c'est-à-dire le dessin préparatoire, hein, qui... Bon, c'est dû en l'occurrence à Simonet Martinez, ça se trouve à Avignon.
Il y en a un certain nombre à Pise.
Oui, Pise, dans le Campo Santo. Hein. À Florence aussi, il y en a beaucoup. Voilà. D'ailleurs, à Avignon, on a même retrouvé une autre sinopia, parce que dans le portail de l'église Notre-Dame-des-Dons, qui est juste à côté du Palais des Papes, à l'entrée, il y avait deux peintures de Simonet Martinez, deux fresques, qui ont été déposées parce qu'en très mauvais état, et dessous, on a trouvé la sinopia. Voilà, vous avez ici la sinopia, et je vous ai montré la sinopia des autres. Les peintures, les fresques, elles sont très abîmées, les voilà. Hein. C'est vraiment en très, très mauvais état. Les sinopias ont été déposées, mais en dessous, on a... Pardon, les fresques ont été déposées, mais en dessous, on a trouvé la sinopia. D'accord ? Je vous montre très vite les deux derniers éléments. Un tableau italien du XVe siècle, qui est en cours de restauration. Il y avait des manques, on a comblé les manques. Comment est-ce qu'on va faire pour les reprendre ? Là, le tableau a été traité, c'est un tableau du musée de Dijon, hein. Les manques ont été comblés, mais on a des taches blanches, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle une retouche. Et cette retouche, on fait comment ? On prend ça, la peinture à l'huile et on repeint là ?
Non.
On essaie déjà de retrouver les mêmes matériaux.
Est-ce qu'on retrouve les mêmes matériaux ?
Oui, mais c'est déjà de la tempéra, ça.
Alors, c'est pas que ce soit pas possible, c'est tout à fait possible. Mais on fait exprès de par contre les mêmes, au contraire. Parce que, rappelez-vous, une restauration, elle doit, un, se voir, deux, être réversible. Donc, quel matériau, à vrai dire, on va utiliser, là, sur cette peinture qui est sans doute une tempéra et avec de la dorure ? Voilà, plutôt de la peinture à l'eau, gouache ou aquarelle. On prend de l'aquarelle, quelque chose qui sera réversible. Avec une éponge, vous pourrez enlever vos repeints. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez repeindre comme ça en plein. Voilà ce que ça a donné, hein, devant restaurant. En fait, généralement, les vides, on les peint avec des petites touches. On appelle ça du tratteggio. On fait des petits traits. Tratteggio, ça veut dire des petits traits. Et donc, on fait des petits traits. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien là, mais les parties peintes, par exemple, sur le buste du Christ, hein, ont été repeintes, mais pas en bétonnant, hein, mais en faisant des petits traits. Alors, de près, je vais vous montrer sur une autre œuvre, là, ça se voit assez peu aussi, hein, mais là non plus, d'ailleurs. Enfin, vous voyez les détails, ça donnerait ça, si vous voulez, si on est encore de plus près. Là, vous voyez la tête d'un Christ, hein, vous voyez qu'il manquait beaucoup de choses. Voilà ce que donnent les petits traits en question. Quand vous regardez de très, très près, ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la peinture originale, vous voyez le tratteggio, les petits traits en question. Ce qui fait que quand vous êtes très très près, vous voyez ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. De loin, voir les figures de loin, hein, les choses sont moins visibles, vous voyez ce que je veux dire ? Mais de près, c'est très très visible. D'accord ? Et vous le faites avec, encore une fois, de l'aquarelle, quelque chose de vraiment inversible. Voilà.
Oui, mais là, il faut savoir marier les couleurs.
Ah oui, oui. Ah ben, le tratteggio, il se fait, on met plus... C'est-à-dire qu'il faut calculer sur la totalité de l'œuvre la densité des couleurs par espace pour retrouver, si vous voulez, un tratteggio qui, à la fois, se voit sans trop se voir.
C'est une sorte de pointillisme spécialisé.
C'est ça. Bon, et je vous montre le dernier des derniers, vous en rappelez ?
Oui.
On l'avait vu au moment de la première séance, vous vous rappelez ? Et je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, en fait, je le dis parce que la séance se termine là, mais ce qu'on a fait quand c'était, vous vous rappelez, il est rentré au musée du Louvre, et vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait autour du liège, et que c'était assez moche, hein, puis pas terrible en termes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le liège, hein. Alors, c'est un tableau de Fra Angelico, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que ce tableau, il est venu en rejoindre un autre. Si je vous montre ça, c'est parce que, je vous le dis, puisqu'on a dépassé l'heure, hein, mais vous voyez que, parfois, quand il y a des manques, soit on recompose, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'œuvre de Dijon, d'accord ? Soit on laisse le manque tel qu'il est. Regardez là, ça c'est un tableau du Louvre encore, hein, où vous voyez une scène, et vous voyez que cette scène était très abîmée. À une époque donnée, d'ailleurs, on avait repeint mal certaines parties de la partie manquante. Quand on a restauré, on a enlevé ces restaurations assez moches, on a décidé de garder la partie manquante sans repeindre, mais en mettant quand même un traité de Giotto qui, comment vous dire, permet que ça ne gêne pas dans le fond. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est-à-dire qu'on a, en faisant des calculs avec toutes les couleurs de la peinture, trouvé une espèce de peinture moyenne où on voit un peu des touches de toutes les peintures du tableau, si vous voulez, qui permet de combler sans recréer ce qui a disparu, dont on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a enlevé les mauvaises restaurations anciennes. Et on n'a pas restauré, mais on a mis quand même une peinture de fond. Dans certains cas, on fait autre chose. Dans certains cas, carrément, on laisse, comme dans ce tableau-là, on laisse en gros le bois visible. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce tableau de Antonello de Messine, où il y a beaucoup de manques, on a décidé de faire quelque chose de très archéologique. Tout ce qui manque, ça manque, bah tant pis. On n'a même pas cherché à retrouver, avec un traité de jour, la peinture du fond. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais il y en avait trop à refaire.
Ouais, trop à refaire. Et alors, bah, là, je vous remontre hein, la totalité de l'œuvre d'après elle en question. Voilà. Hein, et ça, c'est l'œuvre d'Antonio Messine. Et donc, le tableau du Louvre qui est revenu, le voilà. Donc, on a fait la même chose. On a enlevé, vous savez, le liège. Hein, et on a décidé de garder l'œuvre archéologiquement. Oui, on n'a rien reconstitué. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que ce tableau-là est arrivé au Louvre il y a quelques années. Et il a retrouvé un tableau qui était au Louvre depuis un siècle, qui est celui de gauche. Ça vient de la même composition de Fra Angelico. Là, a retrouvé l'autre. Et les deux sont présentés, vous voyez, de manière très archéologique. On n'a pas repeint. On n'a pas fait de traité de Giotto. On a simplement laissé tel que c'était, avec les lacunes. Elles sont là. Et puis basta. D'accord ? Voilà, je voulais laisser là-dessus ce qu'on a vu cette œuvre tout à fait au départ. On avait discuté dessus, vous rappelez, la première séance, et je voulais vous la remonter. Voilà, on a terminé un petit peu en retard, mais...